On va commencer notre deuxième shiur sur la lettre numéro 19, Jadmour Hazaken. Je rappelle rapidement le thème de la semaine dernière. On a expliqué que... Allez, mais on y va. On a expliqué que dans le livre L'Écouté Torah du Arizal, c'est écrit que Moshe Rabbeinu n'a pas compris autant que le Arizal. Voilà en gros ce qui était écrit. Et donc on avait posé la question la semaine dernière, on a dit, bien sûr que le Arizal, comme on a développé longuement la semaine dernière la personnalité du Arizal, comment c'est un sage qui est niftar très très jeune et qui a eu le temps de développer des choses extraordinaires, c'est clair que c'est un sage très très grand. Et comment on peut dire des paroles comme ça, de dire que c'est plus grand que Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, c'est intouchable. Moshe Rabbeinu, ça on l'a pas dit la semaine dernière, Moshe Rabbeinu, sur Maïmonide, quand il parle de Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu, Maïmonide dit, c'est Mifrar Amin Aenoshi, c'est ce qu'il y a de plus choisi dans la race humaine. Ça veut dire que quelqu'un de plus parfait que Moshe Rabbeinu, on n'a jamais trouvé. Jamais. Et on ne trouvera jamais.
Ouais.
D'accord? Donc c'est pas n'importe qui, on parle pas n'importe qui. À tel point que Moshe Rabbeinu, dans le schéma, la deuxième partie du schéma, qu'est-ce qu'on dit? On dit, Dieu, il dit, Ve'aya imshamo atishmo amitzvotai, si vous allez écouter mes mitzvot, d'accord? Qu'est-ce que Dieu, il dit? Venatati esev vesadecha, je donnerai la récolte dans ton champ. D'accord? Donc c'est Dieu qui parle. Le problème, quand on lit le pasouk, dans le parashava et ranan, c'est pas Dieu qui parle. Qui c'est qui parle? C'est Moshe. Il dit, si vous écoutez mes mitzvot, je donnerai la récolte dans ton champ.
Il parle avec les paroles de...
Alors, la Gemara pose la question, la Gemara dit, mais...
Oui, depuis quand il parle à la place de...
Non, d'habitude, on a eu l'habitude que Moshe Rabbeinu dit, Dieu a dit que si vous écoutez ses mitzvot, d'accord? Là, il n'a pas dit Dieu a dit. Il a dit, si vous écoutez mes mitzvot, je vous donnerai la récolte dans vos champs. Et si vous écoutez pas, je ne donnerai pas. Comment a dit, mais attends, qu'est-ce qui s'est passé là? On a raté un épisode? Et qu'est-ce que répond la Gemara? La Gemara répond, elle dit que Moshe Rabbeinu, à ce moment-là, il était à un niveau tellement fort que la Shrina parlait de sa gorge. C'est-à-dire qu'il n'était même plus, il n'avait même plus, en général, comment ça se passe chez nous? Il y a moi.
C'est une excuse ou c'est vrai?
Non, c'est vrai, mamache. On a d'autres exemples. Il y a, en général, comment ça se passe? Il y a moi et il y a le message que je véhicule. C'est deux choses différentes. D'accord? Il y a moi, qui est la personne que je suis, ce que je pense, que je suis, ce que je fais. Et il y a le message que je véhicule. Deux choses différentes. C'est pour ça que je peux pas dire, Dieu a dit. C'est pas moi qui parle. C'est pas Dieu qui parle, c'est moi qui parle. Mais Moshe Rabbeinu, il avait atteint un tel degré d'annulation à Kadosh Baruch Hu, que c'était même pas lui qui parlait. Sa gorge était presque un conduit par lequel Dieu parlait. Extraordinaire, on n'a jamais vu ça. On a vu ça un petit peu chez les patriarches. On n'a jamais revu ça. Donc, je reviens à ma question de la semaine dernière, qui était, comment on peut dire que le Arizal a vu des choses que Moshe Rabbeinu n'a pas vues? On ne peut pas parler comme ça, c'est très grave de parler comme ça. La semaine dernière, on n'a fait que commencer à expliquer. On a expliqué qu'en vérité, il y a voir et il y a comprendre. Il y a deux choses différentes qui n'ont rien à voir. Je peux voir et ne pas comprendre, je peux comprendre sans voir. C'est deux choses qui n'ont rien à voir. On avait expliqué que dans le langage de la Gemara, ça s'appelle le Chacham et le Navi. Le Chacham, c'est celui qui comprend, mais pas forcément qui voit, mais le peu qu'il arrive à percevoir, il arrive à le comprendre. Le Navi, c'est le prophète. Le prophète, il a accès à beaucoup plus d'informations. Il voit beaucoup plus de choses, sans forcément les comprendre. D'accord? On peut rester des heures et des heures dessus.
Il voit dans le futur.
Oui.
Il voit pas forcément le futur.
Pas forcément le futur. Il voit l'image. Je vais vous donner un exemple pour vous comprendre. D'accord. Je vais vous donner un exemple parce que ça vraiment, j'ai vu que la semaine dernière quand on a fini, j'ai vu que ce sujet n'était pas très très clair. Donc je vais donner d'autres exemples encore, d'autres exemples dans la Gemara pour essayer de comprendre, d'expliquer ce qu'on veut dire ici. On va donner d'autres exemples pour expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on peut voir sans comprendre, d'accord? Et qu'est-ce que ça veut dire qu'on peut comprendre sans voir? On a dit que, du coup, j'ai oublié l'exemple. Attends, c'est bon.
C'est clair. Après. Moi, tu l'as compris.
Ça, j'ai compris.
Tu l'as pas vu.
J'avais un exemple dans la tête, c'est bon. Attends, on est là.
La semaine dernière, on n'avait pas bien compris.
Oui, ça, je me rappelle que cette dernière, j'avais réfléchi après le cours pour le trouver d'un autre angle. Et j'avais trouvé un exemple.
Vous avez compris la différence, entre
le Chacham, d'accord?
Nous, on avait compris que le Navi, c'était juste une télévision. Et que le sage, il pouvait apercevoir certaines choses, mais par contre, il pouvait les comprendre.
D'accord, mais concrètement, quelle est la différence entre les deux?
Il y en a un qui peut rien faire et l'autre qui peut.
Voilà, je me rappelle la différence, je vous l'explique. L'exemple, tu m'as rebranché.
La télévision, ça.
Alors, l'exemple que je voulais vous donner, C'est, on voit comme ça. Vous savez, dans le monde de la Torah, on a différentes catégories de rabbanim, si on pourrait les catégoriser. On a des rabbanim qu'on appelle les tzadikim. Et on a des gens qu'on appelle des géonim. D'accord? Je traduis. Les tzadikim, c'est des tzadikim. Les géonim, c'est des génies. En vérité, c'est deux catégories qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Ça veut dire, tu peux avoir une personne, c'est un génie en Torah. Très très fort. Il est très intelligent. Donc quand il a mis son intelligence dans la Torah, bah, automatiquement, c'est un génie en Torah. Ça veut dire qu'il comprend très très bien. Donc il a une ou plusieurs longueurs d'avance sur tout le monde. Mais est-ce que ça veut dire que c'est un tzaddik? Pas du tout. On a des grands rosh yeshiva, très grands rosh yeshiva. Tu vas leur demander une bracha, ils te disent je peux pas donner une brachot. Tu veux me poser une question sur la Gemara, je te réponds. Ça, c'est mon domaine. Je veux dire bon, je pense comprendre. Donc tu me poses une question, je comprends. Je suis chacham, d'accord. Mais tu lui dis viens me donner une bénédiction, il va dire non, les trucs spirituels c'est pas pour moi. D'un autre côté. Tu as des gens, des grands talmid des chachamim, qui sont des tzadikim, mais qui sont pas très forts dans l'étude. C'est pour ça qu'au début, quand il y avait des tzadikim comme ça, il y avait même des fois des gens qui se moquaient d'eux. Parce que tu avais des fois des gens, des grands tzadikim comme ça, qui savaient étudier, mais que bon, un rabbin classique dans la ville, il connaissait mieux qu'eux.
Donc, du coup. Le tzadik, il est les deux en même temps.
Ah, bah, justement, ce que je viens d'expliquer, pas du tout.
C'est ça, pas du tout.
Pas forcément.
C'est quoi, des tzadik?
Pas forcément. C'est ça ce que je voulais expliquer.
Un ignare qui est tzadik?
Bien sûr. Ah ouais. Parce que le tzadik, c'est quoi? Tzadik, c'est lié. Non, pas un ignare. Je parle d'un ignare. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas spécialement génie.
Ça vous laisse des chances. Ça
vous laisse des
Non, un ignare, non.
Il a tenté.
Il se sentit bien.
Non, mais ça veut dire, ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que tzadik, ça n'a rien à voir avec le génie. On avait des tzadikim qui n'étaient pas des génies. C'est pas leur rôle. Quand tu viens lui poser une question, tu lui dis, voilà, j'ai une contradiction entre ici et ici, il dit, écoute, va voir le rabbin, il va te répondre à la question.
Ouais.
Moi, on a vu beaucoup, surtout dans le monde ashkenaz, même dans le monde séfarade, on a vu beaucoup de grands kabbalistes comme ça, qui étaient pas spécialement des génies. Pas spécialement, c'était pas leur domaine, c'était pas leur rôle. Seulement quoi? C'était des tzadikim. C'est quoi le tzadikim? C'est-à-dire qu'ils ont une neshama particulière, et que cette neshama voit des choses que nous on voit pas. C'est comme si qu'elle a des lunettes que nous on n'a pas.
On dit, chacun a eu sa fonction.
Exactement. Et c'est deux fonctions qui n'ont rien à voir. Maintenant, Jacques a posé une très bonne question. Il a dit, est-ce qu'un tzadik a les deux? La réponse, c'est ça dépend. Il y a des tzadikim qui ont la chance d'avoir les deux.
Il y en a que non.
Il y en a que oui, il y en a que non. D'accord? Donc là, mamash, avec cet exemple-là, on comprend bien, hein, qu'est-ce que c'est le chacham et qu'est-ce que c'est le navi? Le chacham, c'est celui qui est génie. Le navi, c'est celui qui est prophète. C'est-à-dire, c'est le tzadik. C'est celui qui voit des choses sans forcément les comprendre.
Chacham et navi?
On peut être les deux en même temps. C'est possible. On a des grands.
Un exemple.
Par exemple, notre rabbi, c'était un des deux en même temps.
Bien sûr.
Il donnait des brachot qui étaient extraordinaires spirituels et c'était un génie en Torah. Aujourd'hui, juste chez moi à la maison, j'ai 200 livres publiés par le rabbi. Alors, c'est un génie extraordinaire. Jusqu'aujourd'hui, on n'a même pas fini d'étudier tout ce que le rabbi a dit. Jusqu'aujourd'hui encore, il y a peut-être des équipes de Talmud et Chachamim qui sont en train de revoir tous les enregistrements du rabbi qu'on a de la semaine et ils sont en train d'essayer de les retranscrire. Non, mais c'est des... Bien sûr, on a des tzadikim comme ça encore aujourd'hui, vivant parmi nous, qui sont tzadikim et... Navi, si on peut parler de prophétie, c'est pas prophétie comme à l'époque, mais ça veut dire des gens qui, des tzadikim, les deux en même temps. Donc, racham, navi, deux choses différentes, qui n'ont rien à voir. Qu'est-ce qu'on a expliqué la semaine dernière? Il y avait une question où j'avance. Tout est clair? D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on a expliqué la semaine dernière? On a expliqué qu'en fait, Moshe Rabbeinu, comment ça se fait qu'on dit que le Harizal a compris des choses que Moshe Rabbeinu n'a pas compris? Comment on peut dire une chose comme ça? On a dit, c'est très simple. On a dit, c'est pas du tout la même chose, on parle pas du même camp. Moshe Rabbeinu fait partie du camp des Nevi'im, des prophètes. C'est-à-dire, sa mission à Moshe Rabbeinu, c'est quoi? C'est de voir.
Prophétiser.
De dire, voilà ce que Dieu a dit. Sans forcément comprendre ce qu'il dit. C'est pas son rôle. C'est pas son poste. Son poste, c'est de faire passer des messages. De dire, voilà ce que Dieu a dit. Il reçoit les tables de la loi, il te les donne, il transmet le message, comme on l'a dit tout à l'heure. Je donnerai la récolte. Mais c'est pas mon devoir de comprendre ce que je viens de dire. Mon devoir, c'est de transmettre. C'est de transmettre une information. C'est un prophète. Là, c'est Moshe Rabbeinu. Le Harizal, et comme d'autres grands, font partie des chachamim, que leur rôle n'est pas la prophétie, mais leur rôle est plutôt la chorma, la compréhension. Donc peut-être qu'ils vont voir beaucoup moins que Moshe Rabbeinu, et on va rentrer plus en détail aujourd'hui pour expliquer que ça veut dire quoi voir, est-ce qu'on peut voir plus ou moins, on va essayer d'expliquer aujourd'hui.
La seule chose que j'ai pas bien saisie.
Juste de finir le raisonnement. Donc peut-être qu'ils vont voir moins, mais le peu qu'il va voir, il arrive à l'analyser. Je vais vous donner encore un exemple. Vous savez, moi je travaille dans l'informatique, et dans l'informatique, on a dans le domaine de l'internet. Et dans le domaine de l'internet, vous savez, quand une personne se connecte à un site internet, on essaye de récupérer un maximum d'informations. C'est-à-dire, tout, on récupère un maximum d'informations. C'est-à-dire, par exemple, on va récupérer son adresse IP, on va récupérer la ville, le pays, combien de temps de connexion il est resté. On récupère un maximum de connexions pour faire des statistiques. Par exemple, quand vous recevez un mail et vous cliquez sur le mail, en général, la compagnie qui vous a envoyé le mail, elle sait que vous avez cliqué sur le mail. Parce qu'il y a des fonctions pour ça. D'accord? Alors, une fois, je me rappelle quand on était en train de, quand j'étais aux États-Unis, je me rappelle une fois, il y avait le patron, il avait dit, bon, c'est bien beau qu'on ait toutes ces informations, mais qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces informations? Parce que t'as des masses d'informations, t'as des millions de lignes de code, des millions de lignes dans lesquelles on te dit, voilà, t'as un tel qui s'est connecté tel jour, telle heure, il est resté tel temps, un tel jour, telle heure, tel temps, il reste. Mais après, tu en fais quoi? C'est-à-dire, tu peux être prophète, tu peux avoir une masse d'informations, tu peux connaître beaucoup de choses, mais si tu n'as pas la chorma d'analyser cette information, et d'accord, et d'en produire quelque chose de qui va te faire avancer dans le business, ça sert à rien, tu perds ton temps. Donc vous voyez comment c'est mieux à la limite d'avoir moins d'informations mais de la maîtriser que d'avoir beaucoup d'informations mais de pas la maîtriser. D'accord? Le but c'est pas seulement d'avoir l'information, c'est d'avoir l'information et de la maîtriser. Donc le rôle des Nevi'im c'est d'avoir l'information, le rôle des Tzadikim le rôle des Nevi'im c'est d'avoir l'information, le rôle des Chachamim c'est eux de décrypter et de comprendre, même un petit peu, mais de comprendre l'information qu'ils ont. Il y avait une question, Michael.
C'est quoi la différence alors entre Tzadik et Chacham?
Alors, parce que Tzadik...
S'il y a une différence.
Oui, bien sûr qu'il y a une différence. Tzadik, en hébreu, c'est une personne qui est juste. C'est pas un génie. C'est une personne qui a une échéma particulière et qui est proche de Dieu. Tu peux avoir, par exemple, un enfant qui est tzadik. Un enfant de 5 ans qui est tzadik. Il a une échéma particulière. Dans la Gemara,
on ne voit pas, on ne sait pas.
Bon, lui, il le sait.
Lui,
le tzadik le sait.
À 5 ans, il le sait.
Bien sûr. Il y a des histoires dans la Gemara comme ça. Dans la Gemara, on raconte, des fois, tu avais des enfants. Il voyait quelqu'un, il était capable de te dire en le voyant s'il a fait schéma ce matin ou il n'a pas fait schéma. C'est pas des blagues, ce que je vous dis, hein. C'est la Gemara, c'est pas un truc que j'ai lu hier soir. Dans la nuit.
C'est peur, ça.
Alors, comment il fait? Et une fois, même les Chachamim me l'ont convoqué. Ils m'ont dit, mais attends, ils ont cru que c'était pas possible, c'est du bluff, ils l'ont convoqué. Il y en a un qui a fait exprès le matin de ne pas faire le schéma, il dit, je vais attendre, d'accord?
En même temps, il a une chance sur deux, là.
Non, attends.
Mais bon,
c'est pas fait.
Des religieux.
Ils ont fait un essai.
Celui qui a pas fait.
Ils ont fait un essai. Ils ont fait un essai. Il y en a un qui, ils étaient encore dans l'heure du schéma. Il y en a un qui a pas fait. Ils l'ont fait venir, il a dit, qui a pas lu le schéma? Pac! Il a montré du doigt. C'est-à-dire qu'il voit des choses. C'est-à-dire que quand on fait le schéma, il y a des choses qui se passent que nous, on voit pas. Il y a quelque chose qui se passe sur mon corps, sur moi. Alors, Ramu l'a posé la question, il lui a dit, comment tu fais pour voir? Il a dit, parce que quand une personne lit le schéma, il y a une aura de lumière autour de lui. Celui qui lit pas le schéma, il a pas cette aura de lumière. Lui, il voit cette aura de lumière.
Il n'y a que lui qui la voyait.
C'est comme tu le disais à l'époque, il y a des voiles.
Il y a des voiles. D'accord? Seulement, nous, tout le monde est voilé. Pour vous dire, donc, tzadik, on peut être un tzadik à 5 ans. Sans forcément qu'il comprenne ce qu'il voit. C'est pas grave, ça. Tu comprends ce que je veux dire?
Je pense que tu te cherches, là, Michael. Tu te tzadik,
papa. Bientôt, si tu veux.
Amen.
Ma femme, ça lui.
Il n'y a rien à voir, c'est la nuit. Vas-y,
on y va. Ah, mais c'est important de comprendre. D'accord, c'est important de comprendre, même quand on parle de nos grands, c'est important de comprendre qu'il y a plusieurs qualités et que l'un n'a rien à voir avec l'autre. Les tzadikim qui donnent des brachot, très souvent, ne sont pas spécialement des génies en Torah, et vice-versa, comme ce qu'on a expliqué. Ok. Alors, maintenant, on a expliqué que donc Moshe Rabbeinu, c'est quoi son rôle? Son rôle, c'est de voir. Veraïta, voir. Le rôle du Harizal et le rôle de ceux qui comprennent, c'est de comprendre. Voir et comprendre, c'est deux domaines qui sont différents. Voilà. Moi, j'ai pris un peu de temps pour repasser, parce que comme j'ai vu que la semaine dernière, il me manquait un peu, donc j'ai repassé une couche. Ok. Alors, on va dire maintenant, on a la page 254.
Je suis, je te montre ça ou pas? C'est vrai, hein,
c'est un jeu de bloquer. Alors. Allez, Marcel, il faut que tu commences à suivre dans les mots maintenant.
Bien sûr.
Alors. Velachen Amrou.
J'ai mal où?
Tiens, je te donne un grand, tu veux un grand? Yves, il est pas là, c'est.
Non. Ah, il a réussi à partir finalement ou non?
Oui. Où il est parti?
New York? Aux États-Unis. Parce qu'il y avait des problèmes de météo.
Ah oui, il y a un mètre de neige.
Non, mais les longs courriers sont partis.
Pas tous. Hein? Ils ont annulé 12 000 vols.
Les pauvres cette année.
À New York, 12 galères, ils n'ont pas arrivé là-bas.
Tiens.
Pas un mètre de neige, c'est ce que c'est?
Pourtant, ils sont équipés aux États-Unis. Hein.
Ouais.
Ils sont très équipés. J'étais là-bas longtemps. Alors, on est à la ligne qui commence Velachen Amrou. Vous avez Velachen Amrou, Donc je suis à la 8e ligne avant la fin de la page 254. Velachen Amrou, voilà la raison pour laquelle les Chachamim ont dit Chacham Adif Minavi, qu'un Chacham, c'est mieux qu'un prophète. Comme ce que je vous expliquais tout à l'heure dans l'exemple que mon patron avait dit. Il avait dit, c'est mieux d'avoir un peu d'informations, mais de la maîtriser, que d'avoir beaucoup d'informations sans la maîtriser. D'accord? Parce qu'après, si t'as beaucoup de choses, mais tu sais pas quoi en faire, à quoi ça sert? C'est mieux d'avoir un petit peu et savoir l'utiliser, que d'avoir beaucoup sans savoir l'utiliser. Donc voilà pourquoi nos Chachamim m'ont dit que le Chacham, c'est mieux que le prophète. Pourquoi? Shiachol la sik bechokhmato le mala mala mi madrigot shiochlu lered le mata vibrinat et galut le nvi'im bimar'e nevuatam. Pourquoi? Puisque le prophète, avec sa chokhma, il peut comprendre. Et quand tu comprends quelque chose, automatiquement, tu peux aller beaucoup plus loin. Quand tu comprends pas, alors, tu as une image, mais quand tu comprends pas, bah, tu t'arrêtes à l'image. Plus tu comprends, plus loin tu peux aller. Sinon, tu t'arrêtes à l'image. Tu t'arrêtes à ce que ton cerveau a pu comprendre, mais en vérité, t'as rien compris. Kilo yuchlu l'era de l'idgalot aléem, rak madrigot et tartonot, chehen, je vais un peu vite, hein, parce que ça, on a déjà fait la semaine dernière. Chehen, netzach od yesod malchut, chehen, hen, ayordot, tamid, umidgalot, mamashpia, le mikabel, brilat mochin, vchayut, kayadua, le yod echen, cha netzach od yesod malchut, chel elion, on a déjà fait ça la semaine dernière. Chel elion, mitlapshim et tarton, la chayoto, chehen, hen, kli, a ashpa'a, ayoradat, a chayut, man elion et tarton, bochalamot, on a déjà fait ça la semaine, excusez-moi. Voilà, excusez-moi. En vérité, on est à Velachen Amrou Bezoar. Velachen Amrou Bezoar. Désolé. C'est pas grave, on a relu dans les mots. Voilà, excusez-moi, on est à la page suivante. Page suivante. Sixième ligne. Velachen Amrou Bezoar. Voilà, désolé. Tu as David?
Je cherche.
Velachen Amrou Bezoar. Voilà pourquoi dans le Zohar, on a dit un sujet très intéressant aujourd'hui. Bonsoir. Alors, Velachen Amrou Bezoar, c'est pour ça que c'est écrit dans le Zohar, Deoraita Mechorma Navkat. Que la Torah, elle vient de la Chorma. La Torah, c'est quoi? C'est quoi le but de la Torah? La Torah doit être comprise. C'est pour ça que quand on assiste à un cours de Gemara, par exemple, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on va se casser les dents pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'un rav a dit.
On va se casser la tête, surtout.
D'accord, on va se casser la tête. Tu dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu te prends la tête? Alors, si on n'a pas tout compris. Des fois, vous savez quoi? Des fois, on se casse.
Pourquoi on dit alors on a acheté le
chocolat? Alors, attends, j'y arrive. Des fois, on se casse la tête sur une chose qu'on sait que la halakha n'est même pas comme ça. Tu sais, des fois, t'as une machloket, t'as 3, 4, 5 avis. On sait déjà que la halakha est comme la vie numéro 3. Et pourtant, on va se mettre à poser des questions sur la vie numéro 1, et pourquoi il a dit ça, et pourquoi il a dit ça. Maintenant, tu sais que la halakha n'est pas comme eux. Mais tu veux comprendre. Il faut comprendre. Pourquoi?
Pourquoi
c'est pas celle-là? Et qu'est-ce qu'il voulait dire? Et pourquoi il a pas dit ça? Il aurait dû dire ça. Maintenant, il pouvait pas dire ça parce qu'il avait ça. C'est la Gemara. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il dit ici que le Zohar te dit, Oraita me chokhma nafkat. La Torah est liée à la chokhma. Elle est liée à l'intelligence. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que dans la Torah, il y a deux aspects. Il y a l'aspect mitzvot, qui est l'aspect technique. Que ça, effectivement, on n'a pas besoin de toute la Gemara. Pour ça, tu vas avoir un petit livre qui s'appelle le Shulchan Aruch. D'accord? T'as une question, tu regardes dedans, d'accord? Tu te débrouilles avec ça. C'est un code de loi. Mais heureusement pour nous, on a beaucoup plus de livres que ça. Pourquoi? Parce qu'on a la Gemara qui veut essayer de comprendre, qui veut essayer de développer. Parce que la Torah, c'est pas que les mitzvot. La Torah, c'est aussi une chorma. Une chorma, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on doit comprendre. Les mitzvot, c'est un peu comme le prophète. C'est on donne une information. On dit voilà, tu fais tac, 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 tu mets les tefilines. Peu importe pourquoi. Ça, c'est les mitzvot. La Torah, il faut la comprendre. Faut aller au maximum de ta compréhension. C'est deux choses, d'accord, qui sont distinctes. Ça veut dire en vérité, ce qu'il veut nous montrer ici, c'est que la même chose que j'ai expliqué sur le Chacham et le prophète, on le retrouve dans notre vie de tous les jours, dans la Torah et les mitzvot. Les mitzvot, c'est l'aspect prophète. Comme on a dit, c'est quoi le prophète? Le prophète, c'est celui qui fait, il a des informations sans forcément les comprendre. Il fait parce qu'il faut faire. D'accord? Il dit, il répète un message qu'on lui a dit. Ça, c'est le prophète, on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ça la mitzvah. La mitzvah, Dieu t'a dit, tu mets les tefilines. Maintenant, pourquoi les tefilines doivent être noires? Pourquoi elles doivent être carrées? Pourquoi je dois les mettre le matin? Et pourquoi j'en mets une ici et une ici? Et pourquoi?
Quel parchemin?
Qu'est-ce qu'on met dedans? Ça, c'est, peu importe que tu comprennes ou tu comprennes pas. Ce qu'il faut, c'est faire la mitzvah. Une fois que tu l'as fait, tu l'as mise. Une fois, par exemple, tu l'as mise, tu as fait la mitzvah. Ça veut dire que si, par exemple, tu as quelqu'un qui va être là à penser pendant des heures et des heures à la mitzvah des tefilines. D'accord? Mais qui les a pas mises? Est-ce qu'il a fait la mitzvah?
Non.
Il n'a pas fait. De l'autre côté, t'en as un autre, là, on peut le dire, un ignare complet. Il connaît rien, il comprend rien. D'accord? Et t'en as un qui est venu et pas, qui lui a mis les tefilines. D'accord? T'as un Loubavitch qui est venu, qui l'a saoulé pour mettre les tefilines. Il a dit, bon, d'accord, allez. Ah bah, comme ça, tu me laisses tranquille. Il a fini par mettre les tefillines. Maintenant, il a rien compris. Ça l'intéresse pas. Il voulait même pas les mettre. Il a mis pour qu'on lui fiche la paix.
D'accord. Il a fait deux mitzvahs.
Eh ben, il a fait la mitzvah.
N'exagère pas, quoi.
D'accord.
N'exagère pas.
Pourquoi?
Si, c'est vrai.
C'est vrai? C'est la vérité?
Il y en a qui te disent, oui, vas-y, je les ai pas mis, vas-y, mais moi, oui, bien sûr.
Pourquoi? C'est quoi le pshat? C'est quoi le pshat? Parce que, encore une fois, les mitzvot, c'est comme quand on fait une mitzvah, on est en mode prophète. C'est quoi le mode prophète? C'est-à-dire que, peu importe si tu comprends ce que tu fais ou ce que tu fais pas, ce qui compte, c'est de le faire. C'est de le faire. Mais après, à part ça, on a l'étude de la Torah. Là, l'étude de la Torah, tu n'es plus en mode prophète. Tu es en mode chacham. C'est-à-dire que là, il faut comprendre. Et que si tu n'as pas compris, t'es pas quitte. Vous savez qu'il y a une différence entre la Torah écrite et la Torah orale. La Torah écrite, le Chumash, quand on écoute, quand on le lit, et bon, je pense qu'à la vitesse où on le lit, c'est pratiquement impossible de comprendre, d'accord? Enfin, à moins que celui qui connaît déjà, mais celui qui connaît pas, même s'il voit la traduction, c'est pratiquement impossible de comprendre. C'est écrit que la Torah écrite, quand on l'entend ou on la lit, même sans la comprendre, on fait une mitzvah. Mais la Torah orale, c'est-à-dire tout le reste à part le Chumash, tout le reste, d'accord? Comme la Gemara, comme ce qu'on fait maintenant, comme la Halakha, tout le reste à part la Torah écrite, si tu ne comprends pas, tu n'as pas fait la mitzvah d'étudier la Torah. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on n'est pas en train de faire des mitzvot. Les mitzvot, le but c'est de les faire. La Torah, le but c'est de l'étudier. Qui dit étudier, ça veut dire chercher à comprendre. Maintenant, est-ce qu'on peut réellement comprendre? Ça c'est le thème d'aujourd'hui.
Oui, certains pas.
Est-ce qu'on peut réellement comprendre? Est-ce qu'on peut réellement comprendre?
Cette mitzvah-là, oui. Elle fait partie des 613.
Oui, bien sûr, elle fait partie des 613. Mais c'est quoi la mitzvah?
C'est de comprendre.
C'est de comprendre. C'est de chercher à comprendre, du moins. Alors attends, c'est là qu'est la nuance.
Parce qu'on ne peut pas comprendre. Il y a certaines règles, par exemple, moi, de ce que je comprends, de ce que je me souviens. Il y a les lois, les mitzvot qui sont des chok,
c'est bien.
Les mitzvot qui ne sont pas des chok.
Alors pour toi, les
chok, on ne peut pas comprendre, ça ne vient pas de chez nous, ça vient de là-bas.
Et les autres
et les autres, tu dois les comprendre. Tu dois. C'est possible que tu les comprennes.
Et est-ce que tu penses qu'on peut vraiment les comprendre?
Ah, ça, je ne sais pas. Pas essayé.
C'est le thème d'aujourd'hui.
Voilà. Pas toutes, mais certaines, oui.
Tu peux les comprendre à 100%?
Pas toutes, mais
certaines. Ouais, ça c'est, certaines, oui. C'est le thème d'aujourd'hui. D'accord?
Moi, je sais.
Donc, rappelez-vous, le thème, c'est qu'on
on
a...
On ne peut pas comprendre le rock.
C'est le rock, c'est sûr que non, mais on va expliquer. D'accord?
Le rock, c'est le châtaignier, c'est tout comme ça.
On va essayer de développer.
Le rock, c'est par exemple, une mitzvah qu'a quand
même
donné, genre qui mélange la viande.
Très bien. Alors, on va développer tout ça.
On ne peut pas comprendre.
Donc rappelez-vous, le but d'aujourd'hui, on va essayer de dire que de la même manière qu'on avait un chacham...
Tu manges pas la comment ça s'appelle, la pkeila shabbat, je peux pas comprendre.
Non.
Il a raison, moi je comprends, moi ce qu'il dit.
Alors attendez, on va développer. Regarde.
Ce que
je vais expliquer, c'est que on a dans notre vie, de la même manière qu'on a deux catégories de tzadikim, enfin on a le chacham et le navi, de la même manière chez nous, on a les mitzvot et on a la Torah. Les mitzvot, le but c'est de les faire, la Torah, le but c'est de la comprendre. Maintenant, est-ce qu'on peut réellement comprendre? Alors maintenant, on va développer. Dans les mitzvot, il y a trois catégories de mitzvot. Trois catégories. Il y a Edot, Chukim et Mishpatim. J'explique. On va commencer par le plus simple. Le plus simple, c'est les Mishpatim. C'est quoi Mishpatim? Mishpatim, c'est les lois qu'on aurait pu apprendre tout seul. Par exemple, ne pas voler, ne pas tuer, ou bien beaucoup d'halakhot qu'on a appris dans la parasha la semaine dernière qui s'appelle Mishpatim. D'accord? Comme par exemple, qu'on te dit que si une personne a blessé un autre, tu devras rembourser. Enfin, des choses que la Torah nous en a parlé, c'est élémentaire. C'est élémentaire, mais la Torah nous en a parlé, donc c'est des Mishpatim. Ça veut dire qu'a priori, on pense les comprendre, et on pense non seulement qu'on les a compris, a priori, mais on est tellement sûr qu'on les a compris, que, même si tu me les avais pas dit, je les aurais apprises tout seul. Mm-hmm. Attendez, j'y arrive, je vais revenir dessus, parce qu'en vérité, à la fin, on va expliquer qu'on comprend rien. Mais bon. Non, je préfère vous prévenir. Pour l'instant, on explique la base, après on va expliquer. Donc, on a les Mishpatim. Mishpatim, c'est les lois classiques qu'on aurait pu comprendre de nous-mêmes. Par exemple, la Gemara a dit, quelque chose comme la tzniut, la pudeur. Si Dieu ne nous avait pas dit d'être pudique, tout, on aurait pu apprendre ça. On aurait pu apprendre ça du chat. Non mais du chat.
Pourquoi?
Parce que le chat, on voit que quand il veut faire ses besoins, ou bien quand il veut avoir des relations, etc., il se cache.
Ah, je sais pas.
Bien sûr, tu remarqueras. Le chat, t'as déjà vu un chat faire des besoins comme ça devant toi?
Je sais pas, ouais.
T'as non, déjà vu?
Chien, oui, pas le chat. Ah,
chien, jamais le chat, il se cache.
Mais nous, on aura plus du chat.
Pourquoi? La Gemara, non mais la Gemara a dit...
Il y a les toilettes à domicile, le chat.
Parce que le chat, on voit pas.
La Gemara a dit que... Non, bien sûr. Gmara a dit qu'on aurait appris la tzniout du chat. Donc il y a beaucoup de mitzvot, beaucoup de mitzvot qu'on aurait appris tout seul. Ça c'est les mitzvot qui rentrent dans la catégorie de Mishpatim. Après on a les Edot. C'est quoi les Edot? Edot, c'est des mitzvot qu'on n'aurait pas pu apprendre seul. Mais une fois que tu me l'expliques, je comprends. Par exemple, le Shabbat. D'accord ? C'est un concept qui a été inventé par la Torah. Que un jour par semaine, il faut se reposer. Imaginez que la Torah n'avait pas donné ce concept. D'accord ?
On l'a pas fait.
Est-ce qu'on aurait eu un jour de repos par semaine ?
Peut-être.
Probablement, non. D'accord ? Peut-être ça aurait été un jour par semaine, peut-être ça aurait été un jour par mois, un jour tous les deux semaines, peut-être ça aurait été deux jours par semaine. D'accord ? Il n'y a pas de normes. Mais une fois que la Torah m'explique, la Torah me dit, regarde, quand Dieu a créé le monde, il a créé le monde en six jours et il s'est reposé le septième jour, alors toi aussi, tu travailles six jours et tu te reposes le septième. C'est cohérent. Ça veut dire que je pense pas que j'aurais pensé tout seul, mais une fois que tu me l'expliques, je comprends. Autre exemple de Hédot. Prenez les fêtes. On fait la fête de Pessah, bientôt. D'accord ? On fait la fête de Pourri, bientôt. Tout seul, j'aurais pas pensé à le faire. Mais une fois que tu m'expliques, tu dis, regarde, Dieu nous a fait sortir d'Égypte, donc il faut faire une fête pour commémorer, pour le remercier. Je dis, bon, c'est cohérent, ça va. Je l'aurais pas fait tout seul, mais tu me l'expliques pourquoi, je comprends.
Je sais pourquoi je le fais.
Ça, c'est ce qu'on appelle les mitzvot qui rentrent dans la catégorie de Hédot. Donc ça ressemble aux premières mitzvot, sauf que les premières, même si on me les avait pas dit, j'aurais pu les découvrir tout seul. Les deuxièmes, si tu me les avais pas dit, j'aurais pas découvert seul, mais une fois que tu me l'expliques, bon, c'est cohérent, ça marche, je comprends. Troisième catégorie de mitzvot, c'est les chukim. C'est quoi les chukim? C'est les lois qui sont dites incompréhensibles. Comme par exemple, tout ce qui est les lois de pureté et d'impureté. C'est incompréhensible. On peut pas chercher à comprendre. Qu'est-ce qui explique, d'accord, que si je suis ici, et qu'en dessous de moi, il y a un mort qui est enterré, à 10 km en dessous, je suis passé, je suis devenu impur. Faut m'expliquer ce qui explique ça?
Même 10 km en
dessous. Bien sûr.
Ah bon?
Oui.
Mais comment tu peux savoir?
Non mais d'accord, mais imaginons que je sais.
Ouais.
Je te donne un autre exemple.
Vas-y, non, t'as d'accord. Vu qu'il a mis 5e, il y a un mec qui décède au premier, t'es au-dessus.
Imagine-toi un autre exemple. Imagine-toi, t'es dans un aéroport énorme, 2 km de long. T'as une personne qui meurt au fond de l'aéroport, donc on est sous le même toit. Je deviens impur.
Ah ouais.
Est-ce que c'est logique?
Non,
je vous embête encore un peu.
D'autant que tu la connais pas.
Après, il y a que le juif qui peut rendre impur. Le non-juif ne rend pas impur, même mort. Pourquoi?
Ah bon?
Oui. Tu touches un cadavre non-juif, même un Cohen, il n'y a rien.
Mais pourquoi?
Ben voilà.
Tu
comprends? Bah oui.
Ah oui, attends.
C'est-à-dire que ça suit aucune logique. Parce que, est-ce qu'il y a une différence entre les deux corps? Non. Donc c'est-à-dire que dès le départ...
Il y a une différence, quand même, au niveau de l'âme.
Oui, mais le corps.
Ah, excuse-moi, alors, ça veut dire qu'un Cohen peut entrer dans un cimetière Goy.
Oui, théoriquement, oui. Théoriquement, oui, bien sûr.
Je veux dire, un Cohen peut entrer dans un...
Théoriquement, oui, on le fait pas. Parce que
oui, d'accord.
Théoriquement, oui.
Je ne sais pas ça. Ah, s'il n'y a pas un juge...
Donc ça, c'est un exemple de... C'est un exemple des lois qu'on appelle les... Qu'on appelle les chukim. D'accord ? C'est quoi les chukim ? C'est des lois qui sont dites incompréhensibles. Donc, en général, on aime bien catégoriser les mitzvot comme ça. On a les mishpatim, les edot et les chukim. La question qu'on va essayer de se poser aujourd'hui, c'est est-ce que les mitzvot qu'on croit comprendre, est-ce que réellement la raison qu'on comprend, c'est la bonne raison et c'est la vraie raison ? Je vais vous donner un exemple pour expliquer ce que je veux dire. Attendez. Tout à l'heure, j'ai dit pourquoi on fait Shabbat ? C'est quoi la raison pour laquelle on fait Shabbat ? La raison qui est écrite dans les 10 commandements. Pourquoi je me repose le 7e jour ? Parce que Hachem a travaillé 6 jours et il s'est reposé le 7e jour. C'est ce qu'on a dit ? D'accord. Est-ce que tu arrives à m'expliquer pourquoi si j'habite au 30e étage, j'ai pas le droit de prendre l'ascenseur pour monter chez moi ? Tu m'as dit je dois me reposer.
Ah bon ?
Est-ce que tu peux m'expliquer, d'après ta logique, pourquoi j'ai pas le droit de prendre l'ascenseur?
Parce que tu déclenches un truc électrique et...
Oui, d'accord, non mais ça tu me racontes après ça. Moi je te pose une question. Dieu a dit, j'ai travaillé 6 jours, je me repose le 7e.
Oui, c'est un jour, mais
beaucoup de... Normalement on ne met pas prendre l'ascenseur, il repose quand même.
C'est l'excuse que tout le monde te sort, mais pourquoi?
C'est la question que je te pose. Je vous rappelle, le Shabbat on l'a rentré dans quelle catégorie de mitzvot?
On se repose pas.
Catégorie de Hédot. Rappelez-vous, catégorie A, catégorie B, catégorie C. Catégorie A c'était quoi? C'était les mitzvot qu'on aurait pu comprendre tout seul. Catégorie B, c'est les mitzvot que, une fois que tu me les expliques, je comprends. Catégorie C, c'est nous, je comprends pas. Le Shabbat était dans quelle catégorie? Dans les mitzvot qu'on comprend. Pourtant, tu vois qu'il y a des incohérences. Ça s'appelle une incohérence, ça. C'est-à-dire qu'il y a un problème logique. C'est-à-dire que celui qui fait les mitzvot que parce que c'est logique, il bloque. Il dit, attends, il y a un problème, là.
Je dois me reposer, oui.
Je vais aller à la synagogue, d'accord? Tu m'interdis de prendre le métro. Même le métro. Je vais marcher une demi-heure dans la neige.
J'ai un abonnement.
D'accord? Je vais glisser, je vais me casser la vie.
Navigo, hein. Ouais.
D'accord? C'est pas cohérent. Tu me dis que je dois me reposer. C'est vrai. Donc il y a un problème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même, ce qu'on va expliquer aujourd'hui, c'est que même les mitzvot dans lesquels on a compris la raison qu'on a compris, c'est seulement une goutte dans l'océan, comme il va dire tout à l'heure. C'est rien. la raison est vraie, c'est pas une fausse raison, c'est la Torah qui la donne. Mais en vérité, la raison est beaucoup plus profonde. La preuve, c'est quoi? C'est qu'il y a des incohérences. Et que si tu fais la mitzvah que parce que tu as compris la logique, à un moment, tu bloques, c'est sûr. Et toutes les mitzvahs, c'est comme ça. Toutes. Prenez n'importe quelle mitzvah, pourquoi il y aura toujours...
Pourquoi, par exemple, le Shabbat, on l'a pas mis à point un roc? Parce que...
Parce que Dieu est gentil avec nous.
Parce qu'il y a une...
D'accord? Dieu, non, c'est une très bonne question. Il dit, dans ce cas-là, on n'avait qu'à dire que tout est dérougim. En vérité, tu as raison. Le rabbi, il explique qu'en vérité, toutes les mitzvot, en vérité, sont dérougim. Seulement, Dieu a été gentil avec nous. Il sait que si tu vas nous dire, si on va nous dire toutes les mitzvot sont incompréhensibles, c'est très difficile à faire ça. Il faut quand même qu'on puisse s'expliquer certaines choses.
Non, mais je parle, par exemple, je parle spécifiquement, pas toutes les mitzvot, je parle spécifiquement du Shabbat.
Mais sur toutes les mitzvot, je te dis ça, moi.
Ne pas tuer, ça semble être...
C'est logique, c'est logique.
Plus que logique. Ouais,
c'est peut-être logique, mais pourquoi tu ne ferais pas?
Pourquoi tu ne ferais pas, ouais.
Ouais, oui.
Ah mince, tu gasses, d'ailleurs, tu fais, parce que sur ta tête, tu as le droit de tuer.
Ah, mais ça, tu dépenses, c'est autre chose.
Ça s'est allumé dans ta poche.
Ça s'est allumé? C'est ma femme. C'est ma femme, toi, je t'ai pas dit, regarde.
Ça s'allume, je t'ai dit.
Tu as dit, alors, tu as dit... Qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit,
sur l'autoroute, il y a un flash.
Ne pas voler, ne pas tuer. D'accord?
Non, c'est logique, ça.
C'est logique, j'ai compris. Mais tu trouveras toujours des détails qui sont incohérents, qui suivent pas la logique. Par exemple, je te donne un exemple, je peux parler de ne pas tuer. On te dit que, par exemple, quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, une ville qui ne croit pas en Dieu, d'accord, et qu'on les a prévenus, et qui sont idolâtres, il faut tuer toute la ville. C'est écrit dans la Torah, ce que je vous dis.
Ah bon?
Ouais.
Faut tout détruire.
Ça s'appelle Irani Darat. Faut les détruire. Le même duc de pas tuer, il est tué. Est-ce que c'est cohérent?
Sois pas choqué.
Alors, ça veut dire qu'il faut approfondir. Tu ne dois pas tuer dans certains cas. Dans
oui, mais attends. Oui, mais c'est-à-dire, soit tu suis une logique, tu dis que la vie humaine, il ne faut pas toucher. Dans ce cas-là, on ne touche pas.
Ah oui.
Oui? Je vais continuer. Tu dis qu'il ne faut pas tuer. Ah, pourquoi tu tues un animal pour manger de la viande? Je vais faire le végétarien, là. De quel droit tu enlèves la vie d'un animal pour manger? Parce que j'ai envie de la viande, alors je tue?
Hacham les a autorisés.
J'ai compris, mais pourquoi? Mais c'est quoi la logique?
Non, on parle d'un homme.
On va poser cette question, maintenant. Oui.
Non, mais attends. Les 10 commandements,
oui.
Les lois, elles sont adressées aux hommes?
Elles sont
adressées aux hommes.
Non, toutes adressées aux hommes.
Non, elles sont adressées... Non, pour répondre à ta question. Les lois, elles sont adressées aux hommes.
Oui,
pas aux animaux.
Pour les hommes, envers les hommes.
Oui, sûr, oui, j'ai compris.
Quand on dit ne pas tuer... Forcément, ça veut dire je m'adresse à un homme par rapport à un autre homme.
Oui, j'ai compris, mais c'est
comme... pas forcément, puisque mais... dans le.
Alors, un animal.
Pourquoi tu peux tuer un animal? De quel droit?
Parce que la Torah, elle te met au-dessus de l'animal.
Pourquoi?
Mais t'as pas une raison de tuer.
Mais au-dessus de l'animal, elle te dit que tu es au-dessus de la création.
Si vous voulez, je peux vous donner la raison. D'accord, la raison qu'explique le Arizal. La raison le Arizal explique, il dit qu'en vérité, le monde est fait d'une manière qu'on a. Le minéral, le végétal, l'animal et l'homme.
Oui,
D'accord. Rappel, on avait fait un cours sur ça. Ça fait quelques temps qu'on avait fait un cours sur ça. On avait expliqué que le monde est fait en quatre couches. D'accord. C'est quoi les quatre couches? Donc minéral, végétal, animal et l'homme. Le minéral, son but, c'est quoi?
C'est marqué dans ça.
Le minéral. Oui, mais attends, il y a une logique derrière. C'est quoi le but du minéral? Le but du minéral, c'est d'être au service du végétal. D'accord. Le but du végétal, c'est quoi? C'est d'être au service de l'animal. L'animal va manger le végétal. Le but de l'animal, c'est quoi? C'est d'être au service de l'homme. Et le but de l'homme, c'est quoi? D'être au service de Dieu. C'est-à-dire qu'en vérité, quand je mange de la viande, je suis en train de faire monter le monde entier. Parce que la viande est venue d'un animal qui a mangé le végétal, qui s'est nourri du minéral. Et moi, je suis l'homme qui mange cette viande et qui, avec ça, j'utilise pour servir à Kadosh Baruch Hu.
C'est la chaîne alimentaire.
Donc, la chaîne alimentaire. Voilà, c'est le cas de le dire.
Pour les sacrifices, éventuellement.
D'accord? Oui.
Même pour les animaux.
Bon, mais on va pas quitter le sujet. Il faut qu'on reste focalisé sur le sujet. Ce que je vais expliquer, c'est que même les mitzvot qu'on dit qu'on comprend, comme le Mishpatim et comme les Edot, en vérité, au fond, le fond de la raison, on ne comprend pas. En vérité, on ne comprend pas. Seulement quoi? Seulement Akadosh Baruch Hu, il te dit, tu dois essayer de comprendre. C'est très important d'expliquer ce qu'on dit ici. Ouais, parce que la mitzvah, c'est pas de comprendre.
Il est marrant. Lui.
D'accord?
De quoi?
D'un côté.
Les alphas du
soufre.
Alors.
Comment que nous, le Bédoni, on va essayer de comprendre?
Ah oui,
c'est une très bonne question que tu poses. La réponse est la suivante. C'est que Dieu te donne une mitzvah d'essayer de le comprendre. On a une mitzvah d'essayer de comprendre les chemins de Dieu.
Pourquoi?
Tout en sachant, c'est comme ça. Parce que Kadosh Baruch Hu veut qu'on comprenne, veut qu'on utilise notre cerveau, veut qu'on soit en mode raham. Tout en sachant que forcément notre cerveau est limité et forcément il y aura des incohérences et on va bloquer.
C'est pour ça qu'on va chercher une...
Mais la mitzvah n'est pas de comprendre. La mitzvah est de chercher à comprendre. La nuance est énorme ici. Parce que si tu me dis que la mitzvah est de comprendre, c'est-à-dire que si je suis venu à un cours et j'ai rien compris, j'ai pas fait de mitzvah. J'ai pas dit ça. J'ai dit la mitzvah est de chercher à comprendre.
D'essayer de comprendre.
D'accord? D'essayer de comprendre. Quand tu essayes de comprendre, t'as fait la mitzvah. Maintenant, si je veux comprendre ou pas, Ça, ça dépend de mon mérite, ça dépend de mon cerveau, ça dépend de telle chose. D'accord? Et ce qui va t'expliquer ici, c'est que même les choses que tu crois avoir compris, en vérité, quand tu réfléchis bien et quand tu repasses par derrière, tu comprends que t'as pas compris. Ça, on le voit. Exactement. Mais bien sûr. D'accord? Je me rappelle quand on était, on se rappelle, on avait fait une...
Il y a des couches ou c'est des couches illimitées?
Couches illimitées.
Donc, en réalité, quand on a compris, on pense qu'on est à la millième couche.
Maïmonide, il dit comme ça, il dit quelque chose de très fort. Il dit la plus grande compréhension, c'est de comprendre qu'on comprend pas. D'accord? Non, de comprendre que tu comprends pas. Regardez, prenez des sujets qu'on croyait avoir compris. Même dans le roumage, une chose comme ça. Chaque fois que tu les repasses, tu découvres des nouvelles choses. Des nouvelles choses qu'avant tu croyais pourtant que tu avais compris. Et ça, c'est un bon signe. Ça veut dire que ça travaille. Je me rappelle quand on était à la Yeshiva, quand on finissait une page de Gemara. On disait, ça y est, on l'a fini. On allait voir le rab, on disait, ça y est, on a fini. Il dit, t'as fini? T'es sûr, t'as fini? Recommence. C'est dur donc. Ah, mais attendez, c'est dur de recommencer quand tu crois avoir compris quelque chose. D'accord? Et là, quand tu repasses, une fois, deux fois, tu dis, attends, j'ai pas vu ça. Mais attends, c'est pas con. Il y a un problème. C'est-à-dire qu'en général, la première fois quand tu vois, tu crois que tu as tout compris.
C'est comme tu regardes un film.
Et quand tu repasses.
Il y a des détails que qui se
rajoutent. Et plus tu repasses. Plus tu repasses, moi je parle de la Gemara. Plus tu repasses, d'accord.
Et après on rigole. C'est vrai ou quoi? La fumière, tu peux le voir sans voir.
Et il va chanter aussi.
Plus tu repasses, et plus tu comprends que tu comprends pas. Et c'est pas grave, c'est un bon signe. Quand plus on avance, je peux vous dire que quand on étudie la Gemara, plus on repasse, et c'est très très rare qu'on termine un sujet avec le sentiment que je maîtrise le sujet. Très très rare. C'est pratiquement impossible. Au contraire, tu vas toujours arriver avec des blancs. C'est-à-dire, tu vas dire, bon, écoute ça, on n'a pas parfaitement compris, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça. Et donc, le fait de comprendre qu'on comprend pas, c'est déjà un grand niveau. Croire qu'on a tout compris, ça c'est pour les enfants. Enfin, il lit, il croit qu'il a compris.
Toi, papa, si, je connais papa, tu es pas...
Pas du tout. Plus tu repasses, plus tu comprends pas. Bien sûr. Regarde, aujourd'hui, maintenant, je refais du Chumash. Chaque année, je repasse toute la Torah avec le Chumash Rashi. C'est des choses que j'ai apprises à 6 ans, déjà. 6 ans, 7 ans. Attendez, je le comprenais, j'avais des contrôles, j'avais des notes, d'accord? On me posait des questions, je répondais. Maintenant, je repasse, je comprends pas comment j'ai compris. T'as des Rashi que je comprends pas. Pourtant, je les ai étudiés. C'est pas ça, c'est que avant, quand on dit qu'on comprend pas, c'est pas que tu comprends pas, c'est que l'image générale tu la comprends, mais c'est les détails qui te bloquent.
Parce que maintenant, adulte, tu te poses plus de questions.
Voilà, exactement. Parce qu'il y a des détails qui te dérangent pas avant. Exactement. Et le jour où je trouverai les réponses à ces détails qui me dérangent maintenant, je trouverai encore d'autres détails, d'accord? Dans lesquels je trouverai pas de réponse, c'est pas grave. Il y a pas de limite, c'est la question. Il y a pas de limite. D'accord? Le but de la compréhension, c'est de comprendre qu'on comprend pas. Plus on avance, plus on comprend pas.
Moi, c'est ce qu'il dit. J'adore cette façon d'expliquer la Torah, donc s'il y a déjà cette façon, il y a au moins autant de façons
ça me rassure.
Pas la comprendre.
Plus tu avances, et plus tu comprends que tu comprends pas.
C'est vrai. Du moins, c'est-à-dire que.
C'est ça la beauté de la Torah.
En fait, d'avoir essayé, c'est que.
Mais encore une fois, c'est pas que t'as pas compris. C'est que plus tu avances, et plus tu comprends que ça te dépasse. Plus tu comprends que c'est grand, que c'est énorme. Que c'est énorme, que c'est complexe, qu'il y a beaucoup de détails. Et plus tu repasses, et plus tu comprends la complexité et les détails. Tu comprends que vraiment c'est quelque chose de très très grand. Et c'est beau. Je peux vous dire que quand tu finis un sujet, et que tu as pu voir la complexité du sujet, et comprendre qu'en vérité tu ne maîtrises pas parfaitement parce qu'il y a beaucoup de détails, c'est un vrai plaisir. Parce que tu sens que tu es rentré dans les entrailles. Pas juste passer, t'es dit j'ai compris.
Oui, mais ça fait un peu peur, ça, parce que ça... C'est un peu élitiste, quoi.
Pourquoi?
C'est comme un chercheur si chacun a la solution à ses problèmes.
Il y a d'abord un problème de temps.
La mitzvah, c'est pas de comprendre. Quand vous allez arriver en haut, on va vous poser des questions qui sont citées dans la Gemara Nida.
Encore l'école.
D'accord? La Gemara Nida. On va nous poser des questions. On va nous dire, est-ce que tu étais honnête dans les affaires?
Il faut étudier la Gemara Nida.
D'accord? On va te demander la question, est-ce que tu étais honnête dans les affaires?
Il a rebouillé mon
rôle.
Comment ça se passe?
Ah oui, recalez.
Ben
dire, je réponds à la question. On va lui poser la question. Deux secondes. On va lui répondre à la question. On va lui poser parce qu'en haut tu connais la vérité. On va lui demander est-ce que tu étais honnête dans les affaires. On va lui demander, d'accord, est-ce que tu as étudié la Torah.
Je crois que.
Pas est-ce que tu as compris la Torah.
Est-ce que tu as étudié, d'accord.
Kavata itim la Torah. Plus que ça, vous savez, c'est même plus que ça. C'est même pas est-ce que tu as étudié la Torah. Est-ce que tu as fixé un temps pour étudier la Torah. Maintenant, c'est possible que toi, t'es venu t'es décidé de venir à un cours, t'as fixé un temps, t'as dit voilà, tous les lundis soirs, de 20h30 à 22h, t'as fixé un temps. Maintenant, t'arrives, et tous les lundis soirs, t'es crevé, tu comprends un quart du cours. Et encore. C'est possible. D'accord?
Mais t'as fixé un temps.
Mais t'as fixé un temps pour la Torah. Donc, pour un quart de jour, c'est bon.
Oui, attends, moi, on m'a dit une chose, moi, on m'a dit que c'est pas suffisant. Parce que tu travailles, t'as 8 heures de travail, 8 heures de kiff, 8 heures pour dormir. Tu
pas 8 heures, 8 heures de kiff.
Attends, quelle heure de kiff, où le kiff?
Répète la question.
J'ai pas compris.
T'as 8 heures, d'accord, tu as trouvé qu'une seule heure dans l'argent, on m'a dit ça va. Tu fais la gueule de qui? Tu fais la gueule de
qui? C'est Dieu qui va me travailler. Si m'envoie l'argent.
C'est-à-dire que dans la semaine, t'as trouvé qu'une seule heure pour trouver la.
Non, j'ai compris. Bon, bien sûr. Chacun son niveau. Non, faut pas négliger. Faut pas négliger.
Une heure, c'est bien.
Oui, non, c'est bien. Bien sûr.
Le mieux, c'est un peu le matin, un peu le soir. Non, faut pas négliger. T'as une famille, t'as une femme, t'as des enfants. Attends, deux secondes. T'as une famille, t'as une femme, t'as des enfants. Il faut être disponible pour eux. Il faut te reposer. D'accord? Il faut faire tout ça.
C'est pas ce qu'on comprend, c'est que la Torah, c'est plus important que tout. C'est plus important que tout, l'étude de la Torah.
Oui, mais si tu manges pas, tu
plus important que quoi, tout?
Que tout.
Quoi, que tout?
Que la vie,
Non, papa, non. C'est la même Torah qui te demande de l'étudier, elle te dit que tu dois avoir ta part dans ça, tu dois occuper ta femme, t'occuper tes enfants. C'est chacun son niveau, après.
Parce qu'on m'a dit, c'est une heure, c'est pas suffisant. Enfin, au moins, on comptait 4 à 5 heures.
Celui qui t'a dit ça, c'est... Excuse-moi, je sais pas que t'es... Ne me dis pas son nom, mais... Non. Excuse-moi, ça veut rien dire. Parce que, pour une personne qui n'étudie pas du tout, 5 minutes, c'est énorme, déjà. Pour une personne qui étudie une heure, on va lui dire, mais 2 heures. Personne qui met 2 heures, va lui dire, mais 3 heures.
Comment c'est la première minute?
Ça s'est jamais parlé comme ça. Peut-être t'as mal compris ce qu'il a dit, parce que...
Oui, mais bon. Moi, si ça paraissait beaucoup, mais...
1 heure par jour.
Non.
4 ou 5 heures par jour, c'est énorme.
On peut pas négliger. Chaque chose est appréciable. Chaque chose est un travail. C'est compliqué. On peut pas se libérer comme ça. Alors, dans les mots. On a assez dit à l'oral. On commence
avec le schéma avant de dormir, et après tu finis.
Donc qui t'a mais à mitzvot. Alors je suis dans les mots, reprends dans les mots.
Ouais, fais-moi avant de dormir, après t'emmène.
Donc rappelez-vous, on a expliqué. Il y a le chacham et il y a le navi. Le chacham, c'est quoi? On va commencer par le navi, pardon. Le navi, c'est quoi? C'est comme les mitzvot. C'est les choses qu'on fait sans forcément les comprendre, d'accord? Le chacham, c'est quoi? C'est celui qui cherche à comprendre, même un petit peu, même une page, même une ligne. Qu'on explique, c'est quoi la différence? Le navi, il voit beaucoup de choses. Le racham, il voit une chose, mais il la comprend. C'est la même chose. On te dit, écoute, tu fais 613 mitzvot. Essaye de comprendre un détail du mitzvah. Même un détail. Mais comprends-le. Rentre dedans. Ça, c'est là que t'as fait la misère d'étudier la Torah. De chercher à comprendre. Mais ce qu'il va expliquer ici, qui t'a amé à mitzvot le nidgalou. En vérité, les raisons des mitzvot n'ont pas été dévoilées. Vehem, le malam asechel vehavana. En vérité, les mitzvot dépassent l'entendement. Ah, vous allez me dire, vegam, beizeu, mekoman, même dans quelques endroits, shenit gal et venit paresh, ezeta, amamouvan, anulir, ora, même dans les endroits dans lesquels, a priori, la Torah a donné une raison, comme le Shabbat, les 10 commandements. Dieu dit, tu travailleras six jours, et tu te reposeras le 7e jour, puisque moi, j'ai travaillé 6 jours, je me suis reposé le 7e jour. Donc Dieu t'a donné une raison. Et c'est Dieu lui-même qui t'a donné la raison. Il te dit non. Il te dit, Ein zeatam amuvan lanu levado tachlit ataam ukvulo. Cette raison que tu comprends n'est pas la raison ultime, n'est pas la profondeur de la raison. C'est une raison qui existe, mais c'est pas la raison ultime. La preuve, c'est quoi, comme on l'a dit tout à l'heure? C'est qu'il y a des failles. Dès que tu rentres dans les détails, il y a des failles. Toujours, partout. Dans toutes les mitzvot, dans lesquelles il y a des raisons, donnez n'importe quel exemple, je vous trouve les failles. N'importe quelle mitzvah.
Il y a des tonnes de raisons, finalement.
Toutes les mitzvot. Vas-y, mangez cachère. Vas-y, réponds-moi. Vas-y, pourquoi on mange
cachère? Parce que les animaux non cachères sont des animaux sales.
Excuse-moi.
La vache.
Qui t'a parlé des animaux? Avant de parler des animaux, c'est l'actualité.
C'est les animaux de la Torah, bien sûr. Il y a des raisons.
C'est quoi la raison?
Une liste d'animaux, déjà.
C'est quoi la raison?
Que les avons vendus, machin, et après?
Les poissons, c'est quoi la raison? Qui sont en hauteur, ils se nourrissent de plancton, ils sont pas, alors que les autres animaux sont,
les goïms, d'accord? Ils mangent des huîtres, ils mangent ce que tu veux. Et statistiquement, ça n'a pas été prouvé qu'ils meurent plus rapidement que les juifs. On est d'accord ou pas?
Oui,
c'est vrai, ça. Je dis, les goïms, ils te mangent des huîtres, ils te mangent ce que tu veux. Les Chinois, regarde ce qu'ils te mangent. D'accord?
Et ils ont des centenaires.
Et statistiquement, c'est vrai, statistiquement, est-ce qu'on voit qu'ils meurent plus tôt que nous? Non, alors comment ça se fait que nous, tu me dis que pour nous, on meurt? Seulement, qu'est-ce qu'on te répond? On te dit, le corps du juif est plus raffiné, donc comme il est plus raffiné, il est plus sensible. Bon, tu me le dis, je te crois.
Tu nous as pas répondu.
Je veux dire, plus que ça, on a vu des juifs, des rachats, qui te mangent n'importe quoi et qui meurent pas plus tôt.
Et pourtant.
Je peux te...
Oui, non, mais... Être motivé, hein.
Non, mais... Non, je veux pas faire tomber cette autre carte. Je vais t'expliquer. Non, mais la raison, les raisons que tu donnes, c'est des vraies raisons. C'est des raisons qui sont écrites. Mais ça, c'est des raisons qu'on donne aux gens qui sont loin de la Torah.
Oui, pour le rabouiller.
D'accord? Pour les rapprocher.
Pour expliquer le pourquoi du comment.
Pour leur donner un petit truc pour les attirer. Mais en vérité, une fois que t'as attrapé le poisson, une fois que le poisson il est là, et qu'il commence à rentrer dans les détails, il dit maintenant, il y a un problème. Il est pas cohérent. Mais là, tu l'as déjà attrapé. Tu comprends?
C'est pour ça que t'es là.
T'as compris la chassidou?
T'as compris? La vraie raison, tu la comprends pas. Seulement quoi? La Torah te donne quelques raisons pour comprendre la surface comme ça. Mais après, dès que tu commences à gratter, tu dis maintenant, il y a un problème. On dit, ah. Gratte encore, tu vas trouver. Ou tu trouveras pas. Ou comme ma chère viendra. Ça veut dire quoi? C'est qu'en vérité, la vraie raison, on les a pas aujourd'hui. T'es d'accord ou t'es pas d'accord?
C'est écrit quand même quelque part.
Oui, non.
Ah bah attends.
Non, c'est pas écrit. Non, mais justement, c'est que leur force. Non, justement. T'as dit deux choses différentes là.
Ils ont vu, ils ont compris.
Voir, ils ont peut-être vu.
Certains ont compris.
Voir, on voit la Kedusha, y'a pas de problème ça. Voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, même t'as des gamins de 5 ans qui sont capables de faire la différence entre quelqu'un qui a fait le schéma et qui a pas fait le schéma. Voir, tu peux voir. Mais comprendre, est-ce qu'on peut comprendre?
Et ça, Moshe Rabbeinu, il le savait, non. Il avait les vrais.
Non. Même Moshe Rabbeinu, justement.
Ah, personne?
Non. Même Moshe Rabbeinu, on a dit que, la Gemara elle raconte, a dit qu'une fois Moshe Rabbeinu, il a demandé à Kadosh Baruch Hu, il a dit, montre-moi comment on va étudier la Torah.
Je réponds, non plus, il savait pas.
Juste, je réponds à la question, deux secondes. Laissez-moi finir avec ça. Une fois, Moshe Rabbeinu, il a demandé à Kadosh Baruch Hu, il lui a dit, montre-moi comment on va étudier la Torah dans le futur. Dieu a propulsé Moshe Rabbeinu dans le futur, d'accord, pratiquement, 1000 ans plus tard, Rabbi Akiva. À l'époque, Rabbi Akiva. Donc, il l'a propulsé, la Neshama de Moshe Rabbeinu.
Ah oui, on a fait un truc là-dessus.
Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a vu Rabbi Akiva, il était là en train d'enseigner là. Donc, il a vu Rabbi Akiva dans son Beit HaMidrash en train d'enseigner la Torah.
Ouais.
Et Moshe Rabbeinu ne comprenait rien. Il comprenait rien de ce qu'il se disait. Il comprenait rien du tout ce que Rabbi Akiva disait. Ouais. Il comprenait pas. Alors, il était mal, parce qu'il disait, attends, c'est moi, Moshe Rabbeinu, je comprends pas ce qu'il est en train de dire. D'accord?
C'est moi qui l'ai écrit.
Alors, il s'est retourné vers Dieu, il lui dit, mais attends, il lui dit, mais pourquoi tu ne prends pas lui pour donner la Torah? Pourquoi tu prends à moi? Dieu lui dit, attends, continue, regarde, continue le film. Il continue à voir. Et là, qu'est-ce qu'il voit? Il voit à un certain moment, il y a un élève qui pose la question à Rabbi Akiva, il lui dit, oui, mais Rabbi, mais pourquoi c'est comme ça? Rabbi Akiva lui dit, ah, ça, on l'a reçu de Moshe Rabbeinu au Mont Sinaï.
Excuse la question. Mais quel intérêt?
C'est dur à comprendre la profondeur de ce qu'on est en train de dire.
Oui. La profondeur, c'est quoi? C'est très simple. C'est que Moshe Rabbeinu, c'est un prophète. Donc il voit les choses sans les comprendre. Rabbi Akiva, c'est pas un prophète. Rabbi Akiva, c'est un chacham. Donc Rabbi Akiva, le peu qu'il avait, sur chaque petit détail, il était capable de développer des montagnes de halakhot, dit la Gemara. Mais c'est pas le même rôle.
Sauf pour les paroles données au Mont Sinaï et Moshe.
Voilà, sauf les choses sur lesquelles on dit ça, on peut pas toucher. Comme par exemple que les tefillin doivent être noirs, carrés, ça c'est... On a reçu de Moshe Rabbeinu au Mont Sinaï, on connaît pas la raison.
Mais quel intérêt pour Hachem alors, si personne ne l'a su?
Le pourquoi?
Non, j'ai pas dit que les raisons... Je veux qu'on comprenne, je veux pas qu'on fasse une erreur de croire que les raisons on les comprend pas du tout. J'ai pas dit ça. Il y a des raisons que par exemple, c'est raisons qui a dit que les poissons qui sont en haut, toutes ces raisons-là, c'est des raisons qui sont écrites.
Ou ça peut être des conséquences.
C'est écrit, par exemple, que les animaux purs, ils ont une nature qui est meilleure que les animaux impurs et qu'on est ce qu'on mange. D'accord? Donc, ça, c'est des très belles raisons. D'accord? Mais ça change pas que dans toutes ces raisons, il y a des failles. C'est-à-dire que tu trouveras toujours celui qui ne suit pas, celui qui ne suit pas cette mitzvah et qui n'a pas ce problème.
Mais est-ce qu'il y a une vraie raison alors?
Il y a une vraie raison, c'est sûr qu'il y a une raison.
On la connaît pas.
Ce qu'il dit ici.
Éternel.
Dit Tarame à mitzvot lo nidgalou. Réfter. Donc les raisons des mitzvot n'ont pas été dévoilées. On doit, mais c'est quoi la mitzvah? Nous avons quand même une mitzvah de chercher à les comprendre, tout en sachant qu'on n'arrivera pas à aller jusqu'au bout. Mais on a quand même l'habitude de chercher à comprendre. Pourquoi?
On
n'arrivera pas au bout de la pensée. Mais le fait même que mon cerveau va être occupé à essayer de comprendre la mitzvah, c'est déjà extraordinaire. J'ai déjà tout gagné.
Mais c'est pas motivant, sachant de... On va essayer de comprendre une chose qu'on est sûr de pas comprendre.
Encore une fois. Tu vas la comprendre, mais tu comprendras pas jusqu'au bout.
Il est en train de dire non.
D'accord?
Pas jusqu'à la dernière couche.
Tu vas comprendre, mais ce que tu vas comprendre n'est pas la raison ultime. Donc tu comprendras pas jusqu'au bout. Mais c'est pas grave.
Tu vas comprendre ce que tu dois
comprendre. Parce que le but, c'est pas que tu comprennes. Le but, c'est que ton cerveau soit occupé par la mitzvah. Que ton cerveau vive la mitzvah. Et que tu... Parce que quand on comprend quelque chose, on le vit. Ça, c'est le but. Après, chacun à son niveau, il ira plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. Mais la vraie raison qui répond à toutes les questions, ça n'a pas été dévoilé encore aujourd'hui. Du moins, aujourd'hui, ça n'existe pas. Il y a quelques bribes dans le Zohar, qui sont des avant-goûts de ce qu'on aura contre Mashiach Hora. Mais les vraies raisons, on les a pas. C'est ce qu'il dit si clairement. C'est le Zohar qui dit ça. Donc, vas-y.
Ah là, c'est... Quand tu manges des poissons qui sont pas, qui se nourrissent de cadavres, tu as quand même plus de risques de mourir. Ça paraît logique.
Et statistiquement, c'est pas prouvé. Non, pas du tout.
Va en Thaïlande. Ils mangent que des crustacés.
Regarde les Chinois.
Ils mangent du poisson cru.
Regarde les Chinois. Ils te mangent un bol de riz, d'accord? Parce que dans ce cas-là, si tu me dis que c'est pour la santé, dans ce cas-là, j'aurais dû t'interdire de boire du coca, par exemple. Parce que je peux te garantir que quand tu bois un verre de coca, ça te fait beaucoup plus de mal à ton corps que les crustacés. Mais je te garantis ça.
Ouais, parce que lui,
mais à 1000%, ça c'est
extraordinaire.
Hein?
On y va.
C'est pas bon pour toi.
Seulement quoi? Dieu a décidé. Ou bien t'en as un qui va dire, un autre, j'en connais un autre. Qu'est-ce qu'ils vont te dire? Ils vont te dire, oui, c'est pas bon. Le cochon, c'est pas bon.
Non, c'est bon.
C'est ce que te dit la Gemara? La Gemara dit, t'as pas le droit de dire le cochon, c'est pas bon.
Ouais.
Ah, carrément, t'as pas le droit.
D'accord? Parce que, pourquoi? D'accord? Pourquoi t'as pas le droit de dire? Non, pourquoi t'as pas le droit? Parce que le cochon, ça a été créé par Akadosh Baruch Hu. Et quand ma chère viendra, on mangera du cochon. Tu sais
quoi? Bah oui. Sûr? On va le circoncire, c'est normal.
Rapidement,
on mange des criques en mangeant du cochon.
Eh, hey, il a la gorge en bouchon. Donc...
C'est écrit dans la Gemara Sota.
Que... Non, c'est ça. Là,
pas du tout. C'est très bon le cochon. La Gemara dit comme ça. Je vous dis les mots de la Gemara.
Gemara
Sota, écoute.
C'est ça le cochon. Quand il dit c'est pas bon, il dit c'est ça.
Ah, d'accord.
Oui, c'est bon, du saté. Je mange tout.
J'étais en rendez-vous avec lui.
Excusez-moi, vous avez jeté dans un abattoir tous les animaux.
C'est vrai, tu manges plus.
Vous mangez du saucisson, vous avez déjà vu comment on fait du saucisson? Ouais,
moi j'ai une bonne bague.
Bon, ils mettent pas de la viande de bœuf, mais de la viande de cheval, mais.
Normalement, on doit se dire c'est bon, mais.
Voilà. Alors, c'est ce que dit Youssef, d'accord? Qu'est-ce que dit la Gemara là-bas? La Gemara a dit, tu n'as pas le droit de dire le cochon n'est pas bon. Tu dois dire, le cochon est bon,
mais
qu'est-ce que je peux faire? C'est les mots de la Gemara que je cite. Mais qu'est-ce que je peux faire que mon père qui est dans les cieux me l'a interdit?
C'est quoi donc? Attends,
mais quand tu auras ma chair, on pourra manger.
Ça, c'est la Gemara dit comme ça. La Gemara dit, t'as pas le droit de dire le cochon n'est pas bon. D'accord? T'as pas le droit de dire le cochon n'est pas cachère. Tu dois dire le cochon n'est pas bon. Tu dois dire le cochon c'est très bon. Mais qu'est-ce que je peux faire que mon Dieu qui est dans les cieux me l'a interdit? Ça veut dire que tu comprends pas. Non, tu peux t'auto-convaincre, d'accord? Tu peux t'auto-convaincre, auto-suggestion de dire, ouais, c'est sale, c'est pas bon, de toutes les façons, on n'a rien perdu, de toutes les façons, ils meurent plus vite, tu sais, ça s'appelle de l'auto-suggestion.
Un bon couscous au cochon.
C'est ce que c'est l'auto-suggestion?
Allez,
messieurs. Bon, c'est ma chère, n'est pas là encore. On a des scoops ce soir. David, on va dire les chaïms.
Mais à Pessah, non?
On va dire les
chaïms. T'as pas le droit de dire. Tu vois ce que je veux dire? C'est à cause de quoi? C'est à cause de la temporalité.
Donne le bouchon.
C'est après, il y a des symboles.
On disait que. Pour le cochon, etc., on devait se dire c'est bon, mais j'en mange pas juste parce que Dieu m'a dit de pas en manger.
Oui.
Alors que pour Pessah, non. Tu passes devant une boulangerie, t'as pas le droit de.
Bah, parce que t'as pas le droit.
T'as pas le droit, ça va être qui?
T'as pas le droit, mais on veut pas.
Là,
Bon. Qu'est-ce que je vais expliquer par là?
Oui.
Ce que je vais expliquer par là, c'est qu'en vérité, les raisons des mitzvot, en vérité, on les comprend pas. Si tu l'achètes dans le magasin, tu comprends? Ça veut dire que très rapidement, il faut quitter ces raisons-là. Très rapidement, quand tu avances, tu comprends qu'il y a un problème, qu'il y a un blocage. Tu comprends? Est-ce que tu es d'accord avec moi maintenant? Ah, apparemment, tu es dégoûté là. Tu croyais que tu avais compris la cache route et du coup, tu rentres. Ah, ça me fait juste la peine.
Je vois
la tristesse dans tes yeux.
Non, pas tristesse, mais. Non, c'est lui, t'as
raison. Serge, tu causes casse, il n'y en a pas, hein.
Il va rentrer aux
actions. Non, t'inquiète pas, je sais pas.
T'es en train de t'élever, là, Serge, attention. T'en as pas fait encore, mais.
Tu es en train de comprendre que la raison pour laquelle tu fais les mitzvot, c'est pas parce que tu les comprends.
il est fait pour Akadosh Baruch
Hu. C'est encore mieux alors.
Ça, pour, quand on attire quelqu'un avec la compréhension, c'est quand il démarre.
Oui, voilà, oui. Ouais.
Mais quand tu quelqu'un qui est loin, tu fais
des études. Il va être tenté de dire, bah, vaut mieux que je comprenne rien, je fais tout comme ça.
Non.
Je n'étudie pas.
Ah, voilà. C'est ça le cours d'aujourd'hui.
C'est ce que je te dis.
Voilà pourquoi on a, t'étais pas là au début. Voilà pourquoi on a le Chacham et on a le Navi. C'est par, deux choses en parallèle qui n'ont rien à voir. Dieu, il dit, en parallèle du fait que tu dois faire les mitzvot sans les comprendre, en sachant que tu les comprendras pas, je te demande quand même de le chercher à comprendre au maximum où ton cerveau peut aller.
Non, mais il a raison. Si je fais l'avocat du diable.
Oui.
Et que je me mets face à un type réfractaire, ou pas réfractaire.
Oui.
Ou alors léger. Ou alors presque au borderline. Et qui me dit, écoute-moi, ton histoire là, elle tient pas la route. Quoi que tu me dises Shabbat, machin et tout, c'est marqué on travaille 6 jours, le 7e on se repose. Je prends l'ascenseur, j'habite au 30e étage, tu m'excuses, je monte les escaliers, je me repose pas, je me fatigue. Alors, mais je ne peux pas la comprendre l'histoire.
Ça, tu lui dis pas ça.
Non, d'accord. Mais lui,
il va te le dire.
Lui, il va te le dire.
Oui.
Je vais me poser la question.
Tu vas voir Michael.
C'est illogique.
Tu vas voir Michael demain.
Si je rentre dans un système où je vais m'apercevoir, au final, les raisons pour lesquelles je faisais les mitzvot. C'est pas les vraies bonnes raisons.
La raison ultime.
C'est pas les raisons ultimes du comment ça s'appelle. C'était pas le but ultime du truc. Je me dis, mais attends, peut-être, si je suis borderline, je glisse.
Non. Après, ce que je vais expliquer, c'est qu'à un certain moment, il faut dépasser ce stade que je fais parce que je comprends.
C'est pour ça que tu viens au cours de Chassidut, tu comprends?
Ah oui, non, moi, je parle pas de moi. C'est un danger dans cette histoire.
C'est comme l'enfant. Regarde, je donne un exemple pour illustrer ce que je veux dire. Un enfant. Tu veux le faire travailler à l'école, d'accord? Qu'est-ce que tu veux lui promettre?
Vas-y, dis-moi.
Non, dis-moi, qu'est-ce que tu lui promets?
Moi, je lui promets rien, moi. Je lui promets une
perche. Qu'est-ce que tu promets aux enfants aujourd'hui? Non, mais un cadeau, qu'est-ce que tu lui promets?
Avec 25.
D'accord? Ah, bah.
Ah, s'il passe de classe, tu veux qu'il y ait du mal, bon, tu le motives.
Passe de classe, il y a une Porsche. Alors.
D'accord, tu lui promets un beau cadeau. D'accord? Dans la tête de l'enfant. Non, mais attends, je comprends bien ce que je veux dire. Dans la tête de l'enfant. Oui? Pourquoi il fait des efforts dans ses devoirs?
Pour le cadeau.
Dans sa tête, il est sûr que je me suis crevé à l'école à avoir des bonnes notes pour le cadeau parce que je voulais l'iPhone 5. Voilà, il a dit l'iPhone 5.
C'est pas grave, il lui reste.
Mais en vérité, nous on sait que il aura l'iPhone 5. Mais est-ce que c'est la vraie raison? Est-ce qu'il a travaillé pour l'iPhone 5? Non. Il aura l'iPhone 5. Personne n'a dit qu'il l'aura pas. Il l'aura. Mais en vérité, quand il va grandir, il va comprendre que c'était beaucoup plus profond que ça. Mais seulement, quand il était petit, il n'était pas encore assez grand pour comprendre. Donc, on lui a donné des petites raisons à son niveau. Un bonbon. On lui a donné un bonbon.
Là, je suis d'accord, mais là, tu en c'est la même chose. Vue extérieure.
Non, pas du tout. C'est comme
quelqu'un
ça.
Quelqu'un qui est dans le. C'est
la même chose. On est comme des enfants. Dieu nous donne des bonbons. Ces bonbons, c'est vrai. Ouais. Et on va les manger. Mais c'est un bonbon. C'est-à-dire que quand tu grandis un petit peu, tu comprends que c'est un bonbon et qu'il faut dépasser le bonbon.
Parce que dans le cas de l'enfant, il y a un mérite. Il y a une récompense. Là, on parle pas de récompense, on parle de raison. La raison, c'est pas vrai.
C'est la même chose. Tu veux me demander à l'enfant pourquoi tu travailles. Il va te dire parce que je veux gagner l'iPhone 5. Mais ouais, il est clair dans sa tête.
Nous, on cherche à s'élever.
Mais nous, la récompense.
La raison qu'on nous donne.
Nous, c'est pas la récompense, notre leitmotiv. Tu parles de compréhension.
Je parle des raisons. La même chose.
C'est pas une récompense.
C'est les raisons.
Ou alors, c'est une récompense qui est pas.
Imagine-toi, Michael, j'ai une question pour toi. Imagine-toi, ton fils te demande, papa, pourquoi je dois aller à l'école? Qu'est-ce que tu lui réponds?
Non, c'est pas une récompense.
Quel âge il a ton fils?
Chaque récompense, de toute façon.
5 ans. Alors, imagine-toi, écoute, Michael, la question. Imagine-toi, pas Michael, c'est Youssef. Imagine-toi, ton fils de 5 ans, il te dit, papa, pourquoi je dois aller à l'école? Qu'est-ce que tu lui réponds? Et pourquoi je dois savoir lire?
Ça touche le monde, il est fait pour.
Ça touche
pour
te débrouiller.
Pour te débrouiller. On utilise pour. Tu peux pas lire, tu peux pas avancer.
Il va dire, je vais au CP, j'arrête.
Tu peux pas avancer.
Tu veux CP2, j'arrête. Tu crois que l'enfant il comprend ça?
Non. Fatigué.
Il peut le comprendre.
Il comprendra pas ce que tu veux lui dire.
Peut-être. Ah, j'ai dit, tu travailles pour se faire un bon métier.
Ça le dérange pas.
Il peut comprendre ça.
Non, ça le dérange pas. Il est pas dérangé de pas savoir lire. Il voit pas l'importance.
Continue à.
Non, tu le répètes, tu le répètes. Mon fils, combien de fois je lui dis, si tu travailles, c'est pour toi.
Ah oui. Tu n'écoutes pas, c'est normal.
Non, mais il a.
Je te dis, je t'expliquais. Pour un enfant, apprendre à lire, c'est comme si moi je te dis, tu sais, essaye d'analyser les étoiles. Va analyser les étoiles. Tu sais, dans les étoiles, les astres, il y a un monde là-bas. Je lui dis, mais il y a un monde, c'est énorme, faut analyser. Ça t'intéresse pas parce que c'est pas ton monde. T'en as rien à faire. Ça te parle pas, quoi. Donc tu comprends ce que je veux dire? Donc on est obligé à chaque fois de trouver des raisons pour essayer de. Mais en vérité, la raison c'est pas la vraie raison, la raison ultime. Bon, on va développer dans les mots maintenant. Allez, encore quelques minutes et on s'arrête pour aujourd'hui. Ah, dis.
Hein? Reçu,
oui, non, bien sûr. J'ai pas dit tout de suite. J'ai dit quelques minutes.
Ça va, on s'instruit.
Dis Vega. Ah, on s'instruit ou on s'instruit pas?
Ah, si, oui,
on comprend ou on comprend pas?
Oui, on comprend, mais.
Donc, au bout ah, du il coup, est pas on fait tout pour avoir l'appel. Il va rentrer chez lui, il va être démoralisé.
Non, je ne
sais pas. Il va ramener
l'appel. Benjamin.
Ouais, c'est ramener quoi?
Un petit coup de
Si tu viens, si tu viens à partir de ce que tu comprends,
tu l'as circoncis, je vais pas comprendre un peu.
Non.
Me dit c'est bon.
Non, si tu avances par rapport à ce que tu comprends, le jour où tu vas pas comprendre un truc, tu vas peut-être.
Mais tu dois chercher à comprendre.
Oui, mais pour prendre un postulat à la base.
Oui, le postulat, c'est que même si je comprends pas, je devrais avancer. Oui, c'est deux choses en parallèle. Chacha, mon avis. On va expliquer. Alors dans les mots. Donc il dit maintenant, on va reprendre dans les mots. Je suis à Vegam Beizeu Mekoman.
C'est pire que la
pizza. Le point. D'accord. Il y a un petit point.
Ouais.
Vegam.
Il a vu.
Vegam, Bezeu, Mekoman, et même dans les endroits, Shinit Gale, Venit Parash, Ezetamu, Valanulir, Ora, même dans les endroits, c'est bon, Jacques, vous avez dans les mots, même dans les endroits dans lesquels la Torah a cité une raison, Einzeatam, Amuvalanu, Levado, Tachlitatam, Ukvulo. La raison que la Torah nous a donnée, ce n'est pas elle toute seule, la raison ultime, et la raison, ça veut dire à la limite, Ukvulo, à la limite, ça veut dire que ça, c'est la raison. Jamais ce sera ça, la raison. Et là seulement, Betoro, Meloubash, Pnimiyud, Vetalumot, Rochmash, Elmala, Masech, Elbavana. Bien sûr que la raison qu'Akadosh Baruch Hu a donnée, c'est une vraie raison. Le rabbi explique comme ça, ce mot du Tanya. Notre rabbi explique comme ça, il dit qu'en vérité, ce qu'il explique ici, c'est le Morazaken, c'est que même la raison, on comprend pas. C'est pas que la mitzvah, on comprend pas. Parce que le rabbi a une question très simple. Il dit, si la Torah a donné une raison, c'est que ça, c'est la raison. Comment tu peux dire que la Torah a donné une chose qui est pas vraie? Nous, on nous a toujours appris que Torah, c'est Torah émet. Donc si la Torah c'est une Torah de vérité, imagine-toi tu racontes à ton fils, tu fais les devoirs pour avoir un iPhone 5. Et quand il va grandir, il va comprendre que c'était pas pour l'iPhone 5. Ça veut dire que je lui ai menti. Enfin, je l'ai pas menti, mais c'était pas l'ultime vérité. Mais la Torah c'est la vérité. Quand la Torah te dit que tu vas faire 6 jours, tu vas travailler 6 jours et 7e jour tu te reposes parce que moi j'ai fait la même chose. Si c'est la Torah qui donne la raison, ça veut dire que Torah émet, donc c'est la vraie raison. Seulement quoi? Le rabbi te dit, c'est pas, le pshat ici, ce qu'il faut comprendre ici, c'est pas que la raison que la Torah t'a donnée n'est pas la bonne raison. Non. C'est que ce que j'ai cru comprendre dans la raison que la Torah a donnée, c'est pas que ce que je crois avoir compris. Et que quand on va gratter, on va découvrir que dans les mots de la raison que la Torah t'a donnée, il y avait encore une profondeur et la profondeur, la profondeur, la profondeur, la profondeur.
Des indices.
C'est-à-dire, encore une fois, ce que je veux dire ici, c'est quoi? C'est que on n'est pas en train de dire que la raison que la Torah a donnée est fausse. D'accord? On est simplement en train de dire que cette raison-là, elle n'est pas forcément compréhensible en tant que telle. Et on va devoir gratter et développer et développer et développer cette raison pour comprendre une profondeur qu'il y a dans cette raison. Mais c'est évident que quand il y a une raison qui est, là, ça, il va être un peu plus réconforté là. Quand il y a une raison qui est donnée par la Torah, c'est une vraie raison. C'est pas du bluff. On n'est pas là en train de faire du bluff pour amener du monde. D'accord? C'est pas notre rôle. Mais ce qu'on doit savoir, c'est que même quand on croit qu'on a compris la raison, en vérité, on n'a pas compris la raison. Quand Mashiach viendra, il nous montrera la raison qui était dans les mots de la raison qu'on avait déjà. Est-ce que vous suivez là ou je repasse?
Mais n'a pas ce qu'on continuera quand même à étudier.
Oui, parenthèse.
On a tous résumé. Voilà.
On
reste
comme ça.
Voilà. Ça veut dire qu'en vérité, on n'a pas perdu notre temps. Vous me suivez ou pas? Je repasse une petite couche.
Ça te rassure, sérieux?
Encore une fois.
Ça veut dire aussi que. On se trouve une raison à.
Non. Pas du tout.
Puisqu'on la comprend pas, donc non. On trouve une raison qu'on a compris.
C'est que, en vérité, la raison que la Torah t'a donnée, c'est la vraie raison. Et même quand Mashiach viendra, on comprendra que c'est la vraie raison. Seulement, les mots sont les vrais mots, la raison est la vraie raison, mais la question est comment moi j'ai compris la raison.
C'est ce que je dis.
D'accord? Ce que j'ai compris, c'était vrai. Mais après, chaque fois que tu vas passer, tu vas trouver une profondeur, une profondeur, une profondeur. Et plus tu vas avancer, plus tu comprends, pas. Mais quand Mashiach viendra, Mashiach, il va pas te chercher une nouvelle Torah. Il va te prendre la même Torah. Il va te montrer comment, dedans, il y avait ce qu'on cherchait. Mais que nous, on n'arrivait pas à le voir. Il va nous donner des lunettes comme ça, on va voir.
Peut-être donc pas capable de comprendre ce qu'il va nous dire.
Exactement.
Pas aujourd'hui.
Bien sûr. Aujourd'hui, il n'est pas là.
Non, mais même, on n'est pas...
Mais mon but ici, c'est d'expliquer, c'est qu'il ne faut pas dire, chas v'shalom, que les raisons que la Torah a données sont fausses. Et que c'est seulement pour faire attendre le peuple entre-temps, tu vois. Faire attendre le peuple, on dit, bon, on va vous donner des petites raisons, là, pour vous patienter, la camia.
Il faut approfondir.
C'est pas de la camia, chas v'shalom. C'est les vraies raisons. D'accord? C'est des vraies raisons. Mais c'est des raisons qu'on ne comprend pas forcément maintenant. C'est-à-dire que ce que je crois comprendre en lisant les mots, ben, quand je vais lire plus tard, je comprendrai encore d'autres choses que maintenant je comprends pas. Mais la raison qu'on m'a donnée, c'était une vraie raison. Donc t'inquiète pas, c'est pas du bluff ce que t'as entendu dans les conférences.
Oui.
Mais, il faut chercher à aller plus loin. On continue dans les mots. Alors, il dit, Vechen, pareil. Bechol dibur ve dibur sheyatsa mipi akadosh baruch hu le nevi'im aktuvim ve Torah nevi'im uktuvim. Il dit comme ça. Chaque mot qui est écrit dans la Torah est un mot qui est éternel. Même les histoires de la Torah sont éternelles. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, nous, quand on lit une histoire, qu'est-ce qu'on a l'impression? On a l'impression, c'est une histoire qui s'est passée, il y a 3000 ans, d'accord, 3300 ans, bon, c'est, on raconte une histoire qui s'est passée, c'est tout. Je dis non. La Torah, c'est une Torah de vérité. Ça veut dire que derrière ce que la Torah te raconte, il y a, la Torah te parle de l'actualité d'aujourd'hui. Tout ce qu'il y a dans la Torah, comme il dit ici, toute parole qu'il y a dans la Torah, toute prophétie qui a été donnée aux prophètes, n'a pas été donnée seulement aux, aux gens de cette époque-là, toute prophétie est intemporelle. Comment tu peux comprendre ça? Ah voilà, justement, mais à qui? Je me sens pas concerné. Pareil, tu prends un truc comme les explorateurs. En fait, je me sens pas concerné. Eh ben si. Quand on va gratter, d'accord, on va comprendre que eux ils ont fait une erreur et que la même erreur qu'eux ils ont fait, nous on peut la faire et que le même prophète qui leur a parlé après leur erreur, il nous parle à nous. Parce qu'en vérité, une parole de Dieu c'est intemporel. C'est-à-dire que, pourquoi j'explique ça? Pour te dire que quand la Torah te donne une raison et que toi tu crois avoir compris la raison, c'est intemporel. Ça veut dire que aujourd'hui on a compris la raison comme ça, hier on l'a compris autrement et demain on la comprendra encore autrement. C'est pas grave. C'est intemporel et dans chaque génération on va essayer de l'adapter selon notre niveau. Tout ce qu'il y a dans la Torah, c'est intemporel. Tout. Alors il va rentrer dans les détails ici.
Dans la Torah, quand c'est marqué, et c'est encore comme ça aujourd'hui ou quand c'est encore maintenant, ben c'est là encore maintenant. En fait.
Mais il n'y a pas que ça.
Tout le temps, parce qu'il y a un courant entier sur ça.
Mais il n'y a pas que ça. Regarde. Tout ce que la Torah, dans la Torah, c'est pas un livre d'histoire. C'est le Ramban, Nachman, il est très très clair sur ça. Il dit la Torah, c'est pas un livre d'histoire. Parce que c'est vrai quand tu lis le Chumash Bereshit comme ça, juste le premier Chumash, franchement, ça n'a pas l'air d'un livre d'histoire.
Oui, bien sûr.
C'est un livre d'histoire. Tu dis non. Il te dit c'est un livre qui raconte le monde actuel. Le monde d'aujourd'hui est écrit dedans, dans la Torah. Seulement nous, on a du mal à le voir parce que nous, on croit que c'est un livre d'histoire. Seulement la Torah est intemporelle. Donc derrière ces messages de la Torah, derrière ces messages d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire qu'imaginez-vous, Akadosh Baruch Hu, quand il a donné un message à 3300 ans, il avait en tête toutes les personnes qui allaient l'étudier, d'accord, même 4000 ans plus tard, et comment ce message allait leur parler. C'est intemporel. C'est pas que, par exemple, quand Dieu a dit le Shabbat, c'est pas une mitzvah qu'il a donné par rapport à la réalité d'il y a 3300 ans. Quand Akadosh Baruch Hu a donné la mitzvah du Shabbat à 3300 ans, il a pensé à toutes les réalités jusqu'à la fin des temps. Et la mitzvah du Shabbat correspond à toutes les réalités. Voilà pourquoi la Torah ne peut pas changer. Torah émet. La Torah est une Torah de vérité, ça ne peut pas changer. Toutes les autres sciences peuvent changer. Et au contraire, doivent changer. Il faut s'adapter. Toutes les sciences qui n'ont pas voulu s'adapter au temps se sont écroulées. On est d'accord? Tous ceux qui ont voulu rester, ils ont voulu rester dans leur domaine sans vouloir s'élargir, ils se sont écroulés. Pourquoi nous, dans la Torah, on ne change pas? Pourquoi on ne dit pas, bon, écoute, il faut moderniser un petit peu la Torah. Faut moderniser, pourquoi on dit pas ça? Mais n'a qui dit ça. Pourquoi ça peut pas marcher? Parce que chez nous, on parle de la base que la Torah, c'est une Torah de vérité. Et la vérité, c'est intemporel. La vérité, c'est pas quelque chose qui est vrai aujourd'hui et qui sera pas vrai demain. Si demain, ça sera pas vrai, ça veut dire qu'aujourd'hui aussi, c'est pas vrai. La vraie vérité, c'est quelque chose qui est intemporel, qui est immuable, qui change pas, qui bouge pas. C'est ce qu'il dit ici. Donc, il te dit ici, n'aie pas peur quand on te dit que tu comprends pas la raison. C'est pas grave. Tu vas repasser une couche, tu comprendras encore une autre chose, et encore une autre chose, et c'est pas grave. Dieu, quand il a donné la Torah, il a pensé à tout ça. Parce que la Torah, c'est intemporel. Dans la Torah, il y a toutes les raisons possibles. Il y a toutes les facettes possibles. C'est pas grave. Dieu a déjà pensé à tout ça. Je finis avec ça. Il dit, en divrei Torah, regardez. Dans la Torah, on a des prophéties. Dans la Torah, on a des remontrances. Des paroles de remontrances que Dieu a données à des moments donnés. Et que quand on lit l'histoire, on a l'impression que ça, que Dieu s'adressait seulement à cette génération. Comme par exemple la génération des explorateurs, ou toutes les remontrances qu'on a dans la Torah, on a l'impression qu'on s'adresse seulement à une certaine génération.
Oui, il plaît,
et en vérité, quand on va lire des Mefarshim, qu'est-ce qu'ils vont te dire? Ils vont te dire, non, c'est en vérité Dieu s'adresse à nous aujourd'hui, et l'enseignement qu'on a attiré, voilà le grand classique des rabbins, l'enseignement qu'on a attiré pour aujourd'hui, ouais, pourquoi tu veux un enseignement? Raconte l'histoire, et tais-toi. Pourquoi tu as tiré un enseignement? C'est vrai. Pourquoi tu veux, t'as déjà vu la maîtresse qui raconte, chaque fois qu'elle raconte l'histoire, elle dit, l'enseignement qu'on doit tirer, raconte l'histoire, ce n'est pas l'histoire, Mazel Tov, ça y est. Non. Parce que la Torah, c'est pas un livre d'histoire. La Torah, c'est pas un livre d'histoire. La Torah, c'est un livre qui est, Torah, c'est Milashon Hora'a. Torah, c'est la même racine que Hora'a, enseignement. Le but de la Torah, c'est l'enseignement. Chaque chose qu'il y a dans la Torah, c'est intemporel et chaque personne qui passera pourra le comprendre encore différemment et encore différemment. Et ce que j'ai compris aujourd'hui sera pas ce que je vais comprendre demain et ce que je vais comprendre demain sera pas ce que je vais comprendre après demain. Donc, c'est pas grave si j'ai pas compris parfaitement la raison aujourd'hui et que demain je comprends encore autre chose parce que la Torah est intemporelle et dans les mots de la Torah, tout était déjà dedans, toutes ses facettes étaient déjà incorporées dedans. Ça, c'est la force de la Torah. Vensi pour Emasiot, pareil, les histoires qu'il y a dans la Torah. Mais Lubash betocham. Prinat Rochmat et le Kutche Malam Asechel Bavana. Parce qu'en vérité, la Torah, c'est plus haut que la compréhension. Comme c'est plus haut que la compréhension, ça peut s'adapter à toutes les compréhensions possibles. La Torah, c'est la source même de la compréhension. On est avant même la compréhension. Donc ça peut s'adapter à n'importe quel cerveau, à n'importe quelle personne, à n'importe quelle réalité. Il n'y a aucun problème. C'est pas comme une science qui doit s'adapter à la situation. C'est à nous de nous adapter à elle. Parce que la Torah, comme il te dit ici, elle est plus haute que la compréhension et elle peut s'adapter à tout. La Torah, c'est une correspond à toutes les réalités. Kanire bechush me'inyan akri uktiv. On va finir avec ça pour aujourd'hui. Dans la Torah, il va te donner une preuve de ce qu'on vient d'expliquer, une preuve extraordinaire. Dans la Torah, il y a beaucoup de psukim dans lesquels il y a la différence comment on le lit et comment ça s'écrit. Je vais vous donner un exemple classique, plus classique que ça, il n'y a pas. Fais pas un sidour, s'il te plaît, d'arrêter. Patachiliaou, ce que tu veux. Ouais, Patachiliaou. Regardez. Je vais vous donner un exemple. Voilà, j'ai pris au hasard, là, hein, au pif. Ashrei Yoshevetecha, Ot Yelocha Sela. D'accord. Ashrei Am Shikachalo, Ashrei Am, qu'est-ce que vous lisez après? Chez Adonai Eloah. Je l'ai dit le passage qu'on tient. D'accord. Seulement, c'est pas écrit le mot Amonai ici. Qu'est-ce que c'est écrit? C'est écrit Yeo, virgule, va. Et pourquoi je dis Amonai alors?
Ah oui, c'est oui, bah, ma question. Mais pourquoi on dit pas le nom?
Pourquoi je dis pas?
Ah, mais sinon, je sais pas la poser. Non mais c'est vas-y réponds, je vais répondre.
Ah parce que chez les chrétiens ils disent comme ça, ils disent les témoins de.
Témoins de Jéhovah. Oui.
Ah d'accord. Ah pourquoi nous on... Je comprends pas. Alors si tu dis qu'il y a une erreur dans le texte, alors change le texte.
Mais... Ah oui, pourquoi on marquerait pas.
Pourquoi tu mets un truc qu'il faut pas dire comme ça.
Oui oui.
C'est quoi la raison?
Pourquoi ils étaient témoins de Jéhovah? Une fois il y avait un copain, son père il y avait une boucherie Brahmi à Drancy. Ils sont venus comme ça chez lui les témoins. Il a dit, il y a témoin de quoi? J'ai pas vu d'accident, j'ai rien vu, j'étais dégagé. Témoin de quoi? Témoin, j'ai pas vu, il n'y a pas eu d'accident, dégagé.
Ah, pourquoi c'est écrit comme ça?
Ah oui, c'est...
Pourquoi c'est écrit comme ça? La raison est très simple. C'est que dans la Torah, on a le cri et on a le ktiv. Le cri, c'est la manière, c'est la tradition, comment les choses doivent se lire. Et le ktiv, c'est la manière, comment c'est écrit. Et très souvent dans la Torah, la manière comment c'est écrit et la manière comment c'est se lit, c'est pas la pareille. Très souvent. Classique, vous prenez n'importe quel parasha, il y a au moins deux, trois mots, d'accord, que c'est écrit d'une manière, d'accord, et tu lis d'une autre manière. Pourquoi? Comment ça se fait? Maintenant, il t'explique, moi je vais t'expliquer pourquoi. C'est qu'en vérité, comme il te dit ici, c'est quoi le cri? C'est quoi la manière comment ça se lit? La manière comment ça se lit, c'est la manière comment tu le comprends. La manière comment ça s'écrit, c'est la manière comment tu le comprends pas. Et très souvent dans la Torah, il y a plusieurs couches. T'as une couche que tu comprends, une couche que tu comprends pas. Pourquoi je dis pas Ashrei Ha'am chez Yeho virgule va? Parce que ça, le mot Yeho virgule va, on le comprend pas aujourd'hui. Quand ma chère viendra, on lira comme ça. C'est pour ça que les autres ils disent comme ça, parce que pour eux, il est déjà venu. Non mais c'est vrai, c'est pas des blagues. Oui, ça c'est la raison. Parce que ça c'est un exemple que je voulais vous montrer. Que dans la Torah qu'on fait, il y a des choses que nous-mêmes on admet. Il y a des choses que nous-mêmes on admet. Voilà, ce soir tu vas rentrer avec un cochon ou avec.
Non, non, non,
En face.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la Torah, on admet le fait, nous-mêmes quand on lit, voilà, c'est le Hacheré, plus classique que ça, il n'y a pas. On admet le fait qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas. Et comme on ne comprend pas, c'est pour ça que on lit le mot différemment. Il y a des couches dans la Torah. Il y a la couche de ce qui se lit, il y a la couche de ce qui s'écrit. Et ce qui s'écrit, c'est la réalité, mais comme on la comprend pas, donc, du coup, on le lit différemment. C'est un exemple. Hein. On pourrait faire un cours que sur ça. Je veux pas trop rentrer dans les détails. Je voulais simplement m'arrêter sur ça pour expliquer qu'en vérité, les raisons qui sont écrites dans la Torah sont les vraies raisons, mais la manière comment nous on les comprend aujourd'hui, plus on avance, et plus on comprend qu'on comprend pas. Alors c'est quoi la mitzvah? La mitzvah, c'est quand même d'essayer de comprendre au maximum de notre compréhension. Et ça, on va encore développer la semaine prochaine, parce que ça, il nous faut encore beaucoup de temps dessus. Hein, il nous faut encore au moins deux cours sur cette lettre, parce qu'elle est vraiment costaud, avec beaucoup de détails.
Alors en partant maintenant, on va dire quoi? On a compris? On n'a pas compris.
Non. On a compris que ça nous dépasse. Tu sais, t'es heureux quand tu comprends que ça te dépasse.
Non,
mais
oui.
Non. Pas du tout. C'est pas la même chose. Quand tu comprends dès le départ que t'as rien compris. Écoute, non. J'écoute ta question. Je réponds à ta question. Quand tu comprends, quand dès le départ tu dis j'ai rien compris, bon, t'as rien compris. Mais quand tu passes d'abord par une compréhension et qu'après tu comprends qu'en vérité c'est beaucoup plus profond que ça. Là, c'est beaucoup plus fort. Tu vis beaucoup mieux la chose. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme les chercheurs. Tu peux avoir un chercheur, des gens qui cherchent, d'accord? Ils cherchent. Non, des chercheurs, d'accord? Tu veux le dire? Le gars, il est mort, il a jamais trouvé. Ah, tu dis, mais attends, alors t'es pas miskin, le pauvre. Non, pas du tout. Pas du tout. Pourquoi tu dis, moi je suis pas miskin du tout. Pourquoi? Parce que le but, son but, c'était pas de trouver. Le but, c'était pas de trouver. Le but, c'est de chercher.
Oui, le but, c'est trouver.
Le but, c'est de chercher, de chercher, de chercher. D'accord? Et à force de s'habituer à chercher, on trouvera des choses. Mais pas forcément, ça veut pas dire forcément qu'on va trouver. Peut-être qu'on trouvera pas. C'est pas grave.
Et puis d'abord, faut savoir ce qu'on cherche.
D'accord? Celui qui, dès le départ, il dit, j'ai rien compris. Bon. De l'autre côté, quand t'as un chercheur qui vient, qui te dit, écoute, on a analysé ça, on a analysé ça, on a analysé ça, et donc, au vu de tous ces éléments, on comprend pas pourquoi il s'agit comme ça, il le maîtrise son sujet. Et justement, parce qu'il le maîtrise, il comprend qu'il y a des choses qui le dépassent. C'est beaucoup plus fort que celui qui vient, l'ignare, qui vient et qui te dit, j'ai rien compris. Il n'y a rien à voir. C'est pas la même chose. Est-ce que tu vois la nuance? Comprendre qu'on comprend pas, c'est beaucoup plus fort. Ouais, attention, on t'approche le Navi, là. Donc, en d'autres termes, pour conclure aujourd'hui, le Navi, son rôle, c'est quoi? C'est de voir et de faire, pour nous, les mitzvot. Le Racham, son rôle, c'est quoi? C'est même un petit peu, mais de comprendre. Comprendre. D'être dedans. Comprendre, tout en sachant que ce que j'ai compris, c'est pas forcément la vraie... c'est pas forcément que je vais comprendre le fond de la raison, mais c'est pas grave. J'ai compris, ma tête est occupée avec ça, je vis la chose, et c'est ce qui compte. Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on va développer encore plus en détail ce concept, parce que ça, c'est un concept très 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 important. Je pense que tout le judaïsme est basé sur ça. C'est un conflit qu'on a constamment dans le judaïsme. Comment, d'un côté, on te demande de faire, et d'un autre côté, on te demande de comprendre, et de continuer à faire, même si tu comprends pas, et de continuer à comprendre, d'accord? Tout en faisant. Enfin, c'est toujours un paradoxe, qui c'est toujours l'un dans l'autre. Donc, Bezrat Hashem, encore un cours la semaine prochaine sur ça. Très très intéressant, la suite de la lettre. Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. Un cours que sur ça. Après, encore la suite de la lettre. Voilà.
Ah oui.